notre 25e atelier d'histoire de l'art, puisque 25e atelier d'histoire de l'art, qui est consacré à l'art contemporain. C'était un des sujets que vous aviez identifiés l'année dernière et que vous souhaitiez voir aborder cette année. Je rappelle qu'il y a 3 ans, on avait déjà fait un atelier d'histoire de l'art consacré à l'art contemporain. Ça avait été aussi une de vos demandes. Vous avez donc souhaité qu'on récidive cette année. Par contre, j'ai souhaité le faire de manière un petit peu différente. D'ailleurs, vous l'avez vu dans l'annonce de cet atelier-ci. Vous savez qu'il y a 3 ans, on avait essayé, dans chaque séance, à partir de 5-6 artistes, de dégager 5 grands courants de l'art d'aujourd'hui. On va restreindre un peu la focale et s'intéresser non pas à 5 courants, mais à 5 artistes, à travers à chaque fois une œuvre, qui va quand même nous faire entrer dans l'œuvre des artistes, dont je vous montrerai d'autres œuvres que l'œuvre que nous verrons à chaque fois au départ. Hein. Donc là, il ne s'agit pas de 5 courants avec plusieurs artistes, mais de 5 artistes avec chacun une œuvre, plus d'autres œuvres pour, j'allais dire, contribuer à essayer de comprendre leurs travaux. La règle du jeu, elle va être assez simple. Hein. On va commencer pour chaque séance, donc pour chaque artiste, à regarder une œuvre sur laquelle je vous ferai réagir, sans que vous ayez aucun élément. Vous ne connaîtrez pas le titre, la date de l'œuvre. Voilà, et ça va être à nous de phosphorer autour de ça. Ensuite, je vous montrerai d'autres œuvres du même artiste qui nous permettront, je pense, d'éclairer l'œuvre choisie, en quelque sorte. Et tout ça nous permettra, j'espère, de proposer une sorte de profil du travail de l'artiste en question, dont le nom vous sera révélé en fin de séance, à moins qu'on le trouve avant, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas du tout quel est votre degré d'intérêt ou de connaissance pour les artistes que nous allons voir. Alors, ces artistes, c'est toujours compliqué de choisir des artistes, et surtout dans le domaine de l'art d'aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup, et parce que le tri n'a pas été fait, comme pour les siècles antérieurs, évidemment. Hein. Parler de l'art du XVIIe siècle, on a un peu de recul pour essayer quand même de dire un peu ce qu'il en est. Pour l'art d'aujourd'hui, c'est plus casse-gueule, si j'ose cette expression-là. Alors, le choix, il s'est fait comment ? Alors, il y a évidemment une part de subjectivité. Hein. Il se trouve que c'est moi qui anime ces ateliers. Ben voilà, j'ai ma vision des choses et elle agit malgré tout dans ses choix. Mais il n'y a quand même pas que ça. J'ai tenu d'abord à choisir des artistes qui, je dirais, jouissent d'une certaine renommée. Alors, cette renommée, elle vient du fait que ce sont des artistes soit très exposés dans le monde entier, c'est le cas par exemple de l'artiste que l'on va voir aujourd'hui, hein, artistes donc qui sont reconnus par leur, j'allais presque dire, leur exhibition au niveau international, mais ça peut être également, et tout ça peut se combiner, hein, par les reconnaissances qu'ils ont eues, les prix et autres qu'ils ont pu avoir à droite et à gauche, par leur présence dans les collections publiques ou dans les collections privées. Vous savez que maintenant, en France, idem d'ailleurs. Hein. Il y a un certain nombre de grands collectionneurs privés qui montent leur collection. Vous connaissez par exemple la Fondation Vuitton à Paris. Hein. Oui. Bon, voilà un exemple. Bientôt, une autre fondation va ouvrir la Bourse du Commerce à Paris, quand on pourra enfin ouvrir les choses. Bon, qui montrera une autre collection un peu du même genre. Il y a également, je dirais, oui, une reconnaissance par un certain nombre de critiques d'art qui a pu intervenir. Bref, les artistes choisis sont aussi des artistes qui ne sont pas simplement des artistes que je choisis moi, mais des artistes que je choisis aussi parce que, d'une certaine manière, internationalement, c'est aussi des artistes qui en sont choisis par, je vais dire, une sorte de combinaison. Alors, quelquefois, il y a des artistes qui sont peut-être moins installés que d'autres, hein, dans ceux que nous allons voir, qui peuvent être des hommes ou des femmes, hein. On tentera, en 5 séances ça va être difficile, mais un semblant de parité dans cette affaire. Hein. Il n'y aura pas que des hommes que des femmes, hein. Il y aura un peu des deux. Donc l'idée, encore une fois, est d'avoir des gens qui aient une certaine reconnaissance, même si quelquefois elle est plus étendue que d'autres. Et puis l'autre critère qui me paraissait très important dans ce choix, c'est de proposer des artistes et des œuvres qui ont vraiment des choses importantes à nous dire aujourd'hui. Hein. Après tout, on fait là un travail sur l'art contemporain. L'art contemporain, comme son nom l'indique, c'est l'art d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire l'art des années 2000, hein, en quelque sorte. peut-être fin 90 quand même, hein, et 2000, 2010, donc l'idée est 2020, l'idée est donc de montrer des artistes qui marquent d'une manière ou d'une autre l'époque qui est la nôtre. Hein. L'art, on l'a vu d'ailleurs, ne serait-ce que quand on a fait l'atelier sur l'Égypte ancienne, hein. L'art, évidemment, c'est une question d'esthétique, mais pas que. On a vu à quel point, même dans les périodes très très anciennes, l'art était une question sociale, une question économique, une question politique. Quand un pharaon fait éliminer ou reprendre les statues du pharaon précédent, il y a une dimension politique, par exemple. Hein. Quand un pharaon décide d'éliminer telle religion pour en mettre en place une nouvelle, il y a une dimension politique. L'art a toujours été, et là je prends un exemple parmi des millions d'autres, une affaire politique, sociale, etc. Donc ce qui est intéressant, évidemment, c'est ça. Donc les œuvres que nous verrons, les artistes que nous verrons seront, alors à des titres divers, ce qu'on pourrait appeler des artistes d'avant-garde, hein, c'est-à-dire des artistes dont le travail, aussi bien sur le plan esthétique que sur le plan artistique au sens large du terme, hein, vraiment amène des innovations fondamentales. Hein. Donc voilà, en gros, le cadre de l'atelier qui est le nôtre. Alors, je vous repasse nos petites règles que vous connaissez. La première, et je ne ferai que à cette séance-là, hein, pas au suivant, vous avez l'habitude, nous n'hésiterons pas à prendre la parole sans la monopoliser. Nous suivrons une certaine méthodologie, je viens en gros de vous l'expliquer. Et là, pour une fois, nous ne limiterons pas nos commentaires esthétiques subjectifs. C'est-à-dire que, autant dans les autres ateliers, on l'a dit, hein, on souhaitait avoir une attitude, j'allais dire, très neutre, hein, sans juger de notre goût ou pas pour telle œuvre. Là, puisqu'il s'agit de l'art en train de se faire, de cette matière bouillonnante qui est sous nos yeux, nous pourrons nous autoriser, hein, à dire « oui, mais ça, non, je trouve que c'est pas bien, ça me plaît, ça me plaît pas, ça veut rien dire, ça veut dire quelque chose ». Bref, une dimension, entre guillemets, polémique peut avoir trait dans ces ateliers. Je pense que l'art contemporain, il n'est pas le seul d'ailleurs, hein, mais peut être justement le lieu, le moment, hein, pour, j'allais dire, faire sortir un peu ses tripes, entre guillemets. Hein. Nous n'utiliserons pas davantage Internet que d'habitude, et connaisseurs s'abstenir. Si d'emblée, vous savez de quel artiste il s'agit, que vous connaissez tous l'artiste en question, ben je vous remercie de ne pas mouiller le pétard d'emblée. Ce serait évidemment un peu dommage. Est-ce que vous êtes tous OK là-dessus? Tous et toutes? Oui.
S'agit-il tous les cinq d'artistes vivants?
Tous ce sont des artistes vivants, oui.
Ouais, tous et toutes. Normalement, ça veut dire vivant.
Oui, bon, ça pourrait être un artiste qui, par exemple, serait mort il y a un ou deux ans, quoi, voilà. Hein. Mais non, c'est vraiment tous des artistes vivants, encore que j'ai pas encore choisi les deux derniers, j'ai des hésitations, mais je crois que parmi ceux auxquels je pense, ou celles auxquelles je pense, je crois qu'ils sont, toujours vivants, donc voilà, a priori, c'est vraiment des artistes tout à fait vivants. Oui, c'est vrai que ce mot art contemporain, votre question, elle mérite de montrer ça. Le côté mot art contemporain est un peu ambigu, parce que, je sais pas, il y a des artistes décédés en 2000-2010 qui sont encore contemporains et qui n'existent plus. Mais voilà, donc. Mais a priori, en tout cas, les deux que nous allons voir aujourd'hui et demain sont vraiment bien vivants. J'ai tenu aussi quand même à choisir des artistes assez divers. Hein. L'artiste que nous allons voir aujourd'hui et sur un certain nombre de plans très très différents de celui de demain. Aujourd'hui, je le disais en aparté tout à l'heure, on voit un artiste qui, à mon avis, est assez... Enfin, voilà, il y a des choses, à mon avis, à dire. Demain, il y aura des choses à dire aussi. Mais je me suis dit que vendredi, c'est la veille du week-end, et qu'il était bien d'imaginer un week-end un peu léger. Alors demain, je ne dirais pas que l'œuvre, l'artiste de demain est un artiste plus léger au sens plus futile. Hein. Je crois que c'est un artiste très essentiel que nous verrons demain. Mais simplement, son message est peut-être un message un peu plus... comment dire, enfin, vous verrez. Hein. En tout cas, il sera bien demain. C'est pour ça que, pour celles qui ne pouvaient pas venir demain, je lui disais, ben, dès samedi, peut-être plongez-vous dedans, ça vous donnera un week-end un peu favorable. Bien. Est-ce que tout ça vous paraît... Claire
Oui, pour une fois, on peut donner ses commentaires, on va en profiter.
J'imagine. Pour une fois, bien. Alors, puisque la règle du jeu, c'est de commencer par voir une œuvre et de nous exprimer dessus, alors, je précise quand même, hein, chacun pourra dire ses commentaires, dire ce qu'il en pense, etc. Mais l'idée quand même de travailler dessus. C'est-à-dire que quand on n'a pas de dire, ben, ça j'aime pas. Ouais, hein, d'ailleurs, quand on ne connaît pas une œuvre, dire j'aime pas, c'est un peu garder un plat, ne pas y goûter, dire qu'on n'aime pas. Enfin, ça ne peut pas aller. Quoi, hein. Voilà, donc il ne s'agit pas non plus de dire d'emblée, de rejeter d'emblée, ou au contraire d'accepter d'emblée. On peut le faire, hein. Mais l'idée quand même d'entrer dans l'œuvre, d'essayer de comprendre, de voir ce qu'il en est, chaque son j'entends, et puis ayons toujours la modestie, hein, par rapport à ça, de se dire que par le passé, il y a eu des artistes reconnus dès le départ, qui sont toujours aujourd'hui, je ne sais pas, Michel-Ange, par exemple, a été reconnu au XVIe siècle, il est toujours aujourd'hui, hein. Il y a l'inverse aussi, on sait bien que Van Gogh n'a rien vendu de son vivant, et qu'aujourd'hui, c'est un style le plus coté au monde, voilà. Hein, donc je pense qu'il faut avoir aussi, par rapport à ça, une espèce de relative humilité, de se dire, bon, on peut se tromper, on peut ne pas se tromper. C'est évidemment l'histoire qui, après, fait plus ou moins le tri là-dessus. OK ? Alors, je vous montre la première œuvre. Je vais vous en passer d'ailleurs plusieurs diapos, parce qu'elle elle doit, cette œuvre, être vue de plusieurs manières. Et puis, après, nous allons discuter. Je vous montre donc les diapos. Voilà la première. Je continue. La deuxième. La troisième. Ah ben non, attendez, c'est toujours
la même. C'est les mêmes ?
Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourtant. Voilà, la troisième. Et la quatrième. OK ? Alors, je recommence en mettant la première, qui est peut-être la plus générale, avec la deuxième. Et maintenant, à vous. On va peut-être commencer. Vous savez que nous suivons toujours quand même une méthodologie. Hein, même si nous pouvons aujourd'hui être un peu plus libres, entre guillemets, dans nos avis, on a quand même une méthodologie. L'idée, déjà, d'essayer de comprendre techniquement de quoi il s'agit. Physiquement, techniquement, qu'est-ce que vous avez sous les yeux ? Donc, on ne dit pas ce que ça représente, ni rien. Hein. On dit techniquement, c'est quoi ? Physiquement, c'est quoi ?
Une prière.
Alors, ça, c'est déjà ce que ça représente.
Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle une installation ?
Alors, d'abord, c'est effectivement ce qu'on peut appeler une installation. C'est-à-dire, c'est pas une peinture sur un mur, c'est pas une sculpture sur un socle, c'est effectivement ce qu'on appelle une installation. C'est-à-dire quelque chose qui est présenté dans une salle, dans un espace. Donc, effectivement, c'est une installation. Oui. Ensuite, qu'est-ce que vous diriez ?
En quoi c'est ? Je vois pas.
Alors, plutôt une sculpture, effectivement. Hein. C'est-à-dire, c'est pas en deux dimensions, plutôt en trois, donc c'est une sculpture. Est-ce que c'est une sculpture ?
Non,
voilà.
Ce sont des...
Voilà, c'est ça. On pourrait peut-être dire que c'est des sculptures. En tout cas, des sculptures qui forment une installation. Hein. Voilà.
Des personnages à genoux.
Alors, on a l'impression, ça, c'est, on entre déjà dans la présentation. Est-ce que vous avez une idée des matériaux, peut-être ? Parce que vous avez bien compris que c'était des sculptures côte à côte qui forment une installation. Hein. Ces sculptures, elles sont dans quel matériau ?
Du métal.
Une sorte de métal. Vous avez une idée du métal, peut-être ?
De l'aluminium.
De l'aluminium. Ça vous rappelle quoi, cet aluminium-là, d'ailleurs ?
Ou des tissus métallisés.
Ou des tissus métallisés.
Bourré, un peu.
Oui. Et donc, aluminium, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui vous dit que c'est de l'aluminium ? Ça vous...
C'est la forme.
Oui.
Oui, mais c'est pas possible.
C'est des gens qui sont à l'intérieur.
Est-ce que vous voulez que je vous remonte quelques détails ? Est-ce que je vous remontre peut-être, parce que pour... Voilà, on peut peut-être regarder ça.
Hein ? C'est vide.
Donc c'est vide.
Oui, mais le noir suggère peut-être une présence.
Oui, un masque.
Oui.
C'est un vide.
Donc, effectivement, nous avons là des sculptures qui sont faites, enfin, en tout cas, dont l'extérieur, hein, c'est de l'aluminium, hein, mais l'intérieur, en revanche, est vide.
Hein,
c'est donc une sorte de coque couverte d'aluminium. Un aluminium qui vous rappelle quoi, d'ailleurs ?
Les drapés, les voiles.
Oui, mais dans la vie quotidienne ?
Les pompiers.
Les pompiers,
ou les gens qui travaillent avec le feu.
Oui, et qui ont souvent une espèce de combinaison comme ça, un peu brillante,
avec
oui.
Des casques.
Oui.
Une couverture de survie.
Ça rappelle aussi ça.
Ah oui.
Les coiffes des Arabes.
Oui, une sorte de coiffe. Ça peut faire penser à ce que l'on voit dans les musulmans, effectivement. Ouais. Oui.
Oui, une mosquée.
Oui, un voile.
ça peut faire penser à une mosquée. Alors là, on commence petit à petit à aller vers...
Quand on les voit de dos.
Voilà. Ça, alors peut-être qu'on peut justement petit à petit glisser vers, effectivement, la représentation elle-même, que vous aviez commencé à dire. Hein. Plusieurs d'entre vous ont parlé de gens en prière. Hein. Je pense que c'est aussi à ça que vous pensiez. Hein. Par exemple, aux foules qu'on voit dans les mosquées, etc. Hein. Par exemple, oui. Effectivement, de dos, ça apparaît tout à fait bien, hein, oui. Et cette installation avec ces personnages, ces figures, qu'est-ce que, je sais pas si vous aviez à en dire quelque chose, qu'est-ce que vous en diriez en termes à votre avis, qu'est-ce que l'artiste qui a fait ça veut dire, montrer, préciser, présenter, qu'est-ce qu'il veut évoquer, qu'est-ce que vous voyez là-dedans?
Un enfermement en soi-même multiple.
Donc une sorte d'enfermement. Qu'est-ce qui vous fait parler d'ailleurs d'enfermement
dans cette position?
Oui.
On a l'impression de voir des dos, les bras sont suggérés, plus ou moins courbés.
Oui.
C'est un alignement servile.
Oui. Une sorte d'alignement servile, donc.
Plus asservissement qu'enfermement.
Ben, les deux peuvent d'ailleurs se combiner peut-être. Hein. C'est-à-dire quelque chose qui est lié à l'enfermement. Et vous disiez un enfermement dans un enfermement, c'est-à-dire que les gens sont un peu enfermés, recroquevillés sur eux-mêmes.
Oui, dans une salle.
Et dans une salle, voilà. Donc,
et l'anonymat.
Et l'anonymat, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le côté, les gens sont recroquevillés sur eux-mêmes, donc ils sont enfermés sur eux-mêmes, en même temps ils sont enfermés dans une salle, et en même temps ces gens, on ne sait pas qui c'est, ils sont anonymes pour la bonne raison, de toute façon il n'y a personne à l'intérieur.
Hein, ils se ressemblent tous, par contre.
Ils se ressemblent tous, plus ou moins. Alors, ils sont plus grands, plus petits, plus ou moins penchés, mais en gros, c'est les mêmes, côte à côte. Il y a une espèce de côté laminant, quoi.
Ils sont alignés.
Oui,
c'est discipliné.
Oui, il y a un côté...
impressionnant, c'est le nombre aussi.
Oui, alors ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire, il y a un côté mince, quoi. Hein. Il n'y a pas trois personnes. Ce n'est pas trois sculptures côte à côte. Hein. Il y en a, je ne sais pas combien, je n'ai pas à compter, hein, mais il y en a plusieurs centaines. Hein. Donc, il y a évidemment une masse très importante de gens, de personnages, enfermés sur eux-mêmes, alignés, tous pareils, anonymes. Une espèce de côté, comme ça, un peu, je ne sais pas comment dire, mais étal, comme ça. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous diriez d'autre encore ?
De taille humaine, enfin,
Oui, alors c'est absolument. C'est effectivement de taille humaine. Hein. C'est-à-dire que vous le voyez avec les gens qui sont là. Hein. Alors ils sont dans le fond, mais effectivement, ces figures sont tout à fait de taille humaine. C'est-à-dire, quand on est à côté, ils ont la taille humaine.
Puis ils sont soumis.
Il y a un côté soumission.
Oui,
asservissement. Oui.
Ils ont l'air à genoux.
Ils ont l'air à genoux. Oui, pardon, vous disiez.
Du côté prière, comme ça me fait penser à la prière.
Oui, tout à fait. Alors, cette dimension de prière, mais qui est effectivement poussée à l'extrême dans cette idée d'une sorte de vous l'avez d'ailleurs suggéré ou dit à plusieurs reprises, de soumission, effectivement. Hein. Mmh. C'est-à-dire, on a quand même l'impression que ça rigole pas, quoi. Hein. Alors, hein.
Pas d'individualité.
Oui, ça fait un peu
Oui, pardon.
Il y a un faux plafond.
Alors, oui, il y a effectivement un faux plafond qui, d'ailleurs... Alors, c'est une installation, c'est-à-dire que là, cette œuvre est montrée là, elle pourrait être dans une autre salle, elle pourrait être là, par exemple. Dans ces cas-là, il y en aurait sans doute moins, des figures. Hein. Et vous voyez, l'ambiance n'est peut-être pas la même. Hein. De la même manière, cette œuvre pourrait être dans une salle encore plus haute. Hein. Mais c'est vrai que là, le faux plafond dont vous parlez, très bas, enfin assez bas, je crois, contribue à ce côté enfermement que vous disiez tout à l'heure, hein, qui, à mon avis, participe assez bien, parce que vous parliez d'installation tout à l'heure. Ce concept d'installation, il est important parce que, les installations jouent beaucoup avec l'espace dans lequel on les met. Vous me direz, c'est vrai pour n'importe quelle œuvre d'art. Hein. Mettez la Joconde dans une salle qui fait 20 mètres de haut et 400 mètres carrés, c'est pas pareil que si vous la mettez dans un petit cabinet de 4 mètres carrés à 2 mètres de haut. Vous voyez, hein. Donc n'importe quelle œuvre joue avec son espace. Bon, mais c'est tout à fait vrai pour les installations qui, évidemment, se conjuguent à l'espace dans lequel elles se trouvent. Hein. Et là, vous avez raison de parler du plafond, parce qu'évidemment, je crois que et cette salle n'a sûrement pas été choisie au hasard, hein. Le plafond est là, qui, je trouve, joue beaucoup, hein, dans cette espèce de... Alors, il est haut, le plafond, enfin, il n'est pas si haut que ça non plus, et cette espèce d'enfermement dont vous parliez, il se voit bien, je crois. Hein.
Oui, on n'aurait pas la même impression si c'était à l'extérieur.
Je crois qu'à l'extérieur, évidemment, on aurait une impression, on respirerait. Là, quand même, tout ce que vous avez dit, l'enfermement dans l'enfermement, le côté très aligné, le côté soumission, hein, vous avez utilisé le terme, hein, tout ça joue quand même beaucoup.
Hein. Il n'est pas si bas que ça, Blafaud. Parce que si on prend l'échelle humaine, il est à au moins 5 mètres.
Oui, c'est ça, c'est à peu près 5 mètres. Mais je pense que, comment vous dire, dans le... Oui, ça fait à peu près ça, parce que...
Non, mais il est plus bas, celui qui est devant.
Oui, sauf que, vous voyez, si vous dites que ce monsieur fait 1m90, c'est pas de haut, ça fait à peu près, effectivement, ça fait de haut, environ. Hein.
Mais c'est la dimension qui donne...
Voilà, c'est ça. Je pense que c'est l'importance de la salle, hein. Vous avez dit d'ailleurs qu'il y a beaucoup, beaucoup de figures. Hein. C'est l'importance de la salle qui fait qu'évidemment, le plafond, même s'il est haut... n'a pas l'air si haut que ça, si j'ose dire. Hein. Voilà. Une grande salle, on s'attendait à avoir quelque chose de très haut, 10 mètres de haut. Là, c'est une grande salle qui reste bas, même si... Vous voyez, je crois qu'il y a cette impression-là, effectivement.
C'est une œuvre invendable.
Pourtant, elle a été achetée. Et d'ailleurs, je vais vous dire une bonne nouvelle, elle vous appartient.
Ah bon ?
Eh oui, vous en êtes propriétaire, autant que moi, d'ailleurs. Je peux vous dire qu'elle appartient au Musée national d'art moderne. Oui. Cette œuvre appartient au Musée national d'art moderne, donc vous en êtes propriétaire. Si vous n'en étiez pas au courant, je vous le dis.
On est chacun du personnage chez nous.
Ah non, être propriétaire en commun, c'est pas chacun en avoir un morceau. C'est être commun, c'est ça les communs. On est tous propriétaires de cette œuvre, on vous l'aide, c'est plutôt assez chouette d'ailleurs. Et c'est une œuvre qui donc a été acquise par l'État, par le Musée national d'art moderne, déjà quelques années.
Donc, il y a combien de personnages ?
Alors là, il y en a... Toi, je n'ai pas compté. Hein, mais à mon avis, il y en a facilement 200. Hein, hein, ça doit être de ce genre-là. Hein, je ne sais pas. Mais,
c'est
hein,
un peu encombrant.
Je vous laisse compter. Oui. Ah, c'est un peu encombrant. Oui, c'est un peu encombrant.
Il va le transporter dans sa voiture.
C'est un peu encombrant. C'est sûr qu'il faut voilà, déménager. Alors, à votre avis, donc, je crois que vous avez très très bien vu... ce dont il s'agissait, et au niveau technique, et au niveau du sens. Au niveau technique, ben vous avez bien vu, hein, son, effectivement, c'est une installation qui comprend, on va dire peut-être, une deux centaines de sculptures, hein, voilà, mais qui font œuvre ensemble. Hein, vous ne pouvez pas en mettre une toute seule, ça, évidemment, le sens serait plus là. Ce sont effectivement des coques qui sont faites, des coques donc vides hein, à l'intérieur, mais c'est des coques qui ont été moulées en plâtre à partir de vrais personnages, qui ont été moulés, si vous voulez, hein, voilà, mais dont on a gardé que la coque et qui est couverte d'aluminium. Et derrière l'aluminium, vous connaissez, c'est l'aluminium de nos trucs d'aluminium qu'on utilise chaque jour pour mettre des aliments dans le frigidaire. Hein, c'est cet aluminium-là. Hein. Donc vraiment une... Ben peut-être. Hein. C'est vraiment de l'aluminium de base. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas un bon tissu, je sais pas quoi, c'est un truc qu'on utilise tous les jours.
Ben alors, c'est fragile.
C'est assez fragile. C'est assez fragile. Et c'est un outil du quotidien. Vous voyez, c'est aussi un truc industriel. Vous voyez, c'est pas un joli tissu fait artisanalement, pas du tout. Hein. C'est quelque chose qu'on utilise tous et qui est tout à fait commun. Hein. Donc, vous avez bien vu ce qu'il en était au niveau technique, bien vu aussi ce qu'on en était au niveau du sens. C'est-à-dire qu'on est là devant quelque chose qui suggère tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'idée de l'enfermement, et de l'enfermement personnel, mais de l'enfermement commun, communautaire. Hein. C'est une œuvre qui également évoque cette idée de la soumission. Voilà, merci, je recherchais le mot. Donc ça, effectivement, c'est tout à fait indiqué. L'idée que vous avez également dit, et qui se voit, je crois, très très bien, dans cette, peut-être dans cette vue-là, hein, du vide. Hein, c'est-à-dire que les gens, qui d'ailleurs sont tous pareils, vus de dos, même s'ils ont plus petits, plus grands, plus penchés, moins penchés, ils sont tous pareils, en plus habillés de la même manière, et d'une manière industrielle qui les annihile complètement. Hein. On ne peut pas se dire, oh, bah, tiens, il y a une figure là qui a un vêtement rouge. Ils sont tous pareils, quoi. Hein. En même temps un peu brillant, vous voyez. Hein. Donc il y a une espèce de clinquant, mais de clinquant de paquetis, puisque c'est un clinquant de supermarché, quoi.
Ils sont monogenres aussi.
Monojambes.
Monogenreux.
Ah, monogenres, absolument. C'est des femmes. Oui, vous avez raison. Oui. Tout à fait. Et vide. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a personne dedans. C'est-à-dire que cette foule immense, nombreuse, dense, bien alignée, hein, il ne faut pas que ça dépasse, hein, en même temps, elle est vide. Donc il y a une sorte de... comment dire... d'ambiguïté, on pourrait dire, hein, entre cette foule énorme mais de gens qui ne sont pas là.
C'est l'humanité après l'humanité.
On pourrait dire ça.
Oui, mais alors, si ce sont essentiellement des femmes,
oui.
Il y a un sens supplémentaire.
Pardon ?
Il y a un sens supplémentaire.
Ah oui, absolument, absolument. Absolument.
On est sûr que ce sont des femmes ?
Oh oui, 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 il n'y a que des... Là, tu vois, tu as un détail, et ça ne correspond qu'à des figures féminines. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Alors évidemment, ce sont des vêtements qui sont suggérés, parce que recopiés, hein. Mais ce sont des femmes, effectivement.
On peut faire des poupées gonflables, les entrées de la lumière.
Oui.
Les dégonfler, les retirer.
Oui. Ça pourrait être une manière, effectivement, de réaliser ce genre de choses. Sauf que là, ces coques de plâtre dont je vous parlais ont vraiment été faites d'après des vrais modèles, hein, qu'on a donc moulés.
Elles sont semblables et pas semblables.
Voilà, c'est ça. En fait, tout est pareil et tout est différent. Mais il y a une manière quand même de les rendre tous pareils, toutes pareilles, par ce côté aluminium et systématique, la même position, etc. Mais évidemment, il y a des plus grands, des plus petits, des plus en avant, des plus en arrière, voilà. Hein. Voilà.
Ça fait penser à l'armée du
lanceur jaune. Ça fait penser à ça. Oui, ça fait penser à ça. Tout à fait. Vous avez raison. On pense beaucoup à la tongue du premier auguste souverain, hein, ce fameux empereur Qin Shi Huangdi, hein, avec sa fameuse armée de terre. Hein, ouais. Ça fait beaucoup penser à ça. Hein. Si vous aviez d'ailleurs un nom à donner à cette œuvre, vous appelleriez ça comment ?
L'armée des ombres.
L'armée des ombres. Pas mal. Vous avez d'autres idées pour... Alors, disons, c'est pas mal, parce qu'il y a cette dimension d'armée, hein, tous, il n'y a pas une tête qui dépasse, tous pareils, alignés, etc. Des ombres, pas mal non plus, parce que, bah, il n'y a pas de visage, hein. Donc c'est effectivement un titre qui correspondrait bien. Vous en auriez d'autres, peut-être, ou pas, je ne sais pas.
L'humanité pacifiée.
L'humanité pacifiée. Avec peut-être des guillemets artificiels, voilà. Et peut-être à l'humanité d'ailleurs aussi. Ouais.
Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas. Enfin, ils sont tous alignés à regarder quelque chose, mais en face, il n'y a rien.
Absolument.
Il n'y a pas de Dieu.
Non, il n'y a rien. Vous avez raison. Oui, mais je crois que ce que vous dites est signifiant justement. C'est-à-dire qu'il n'y a effectivement rien. C'est-à-dire qu'ils sont là, alignés, dans une attitude qui évoque celle de la prière, et pourtant il n'y a rien en face.
Il y a un enfermement.
Ah oui, 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 l'enfermement est très important, effectivement. Donc, cette espèce de manière ostentatoire de prier rien, puisqu'il n'y a rien,
ouais.
Et aligné, et enfermé, et en plus, il n'y a rien sous les gens qui sont censés être là. Enfin, voilà, effectivement, on est là devant quelque chose qui est.
Sinistre.
Pardon ?
C'est sinistre.
C'est très sinistre. C'est sinistre, hein. Oui, voilà, ça nous rappelle quelques-uns des éléments du monde actuel, qui n'est pas toujours d'une drôlerie extraordinaire. Hein. Faut le dire. Hein. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que des artistes montrent les limites du monde. Hein. On pourrait en faire une histoire. Depuis l'Antiquité, il y aurait du boulot, d'ailleurs. Hein. Voilà.
Donc, effectivement. À la condition féminine, si on n'a pris que des femmes, ouais. Et qui donc, dans cette histoire de femmes, avec le papier aluminium, la femme doit rester dans la cuisine, dans la partie domestique, et qui doit voir son seigneur et maître qui est l'homme, en tout cas, mais qu'on ne voit pas, parce que elles sont toutes, je dirais,
soumises.
Alors, ça, c'est une dimension, vous le dites, importante aussi. C'est-à-dire qu'on est là, comme par hasard, vous l'aviez bien indiqué, hein, devant une œuvre qui ne représente que des femmes, donc qui, en effet, cantonne. L'enfermement, il est aussi là, d'ailleurs.
Oui,
hein.
Ouais.
Voilà, donc c'est la femme qui, en effet, doit être là. Et doit, voilà, hein, donc il y a effectivement cette dimension aussi. Hein.
Oui, puis qui est silencieuse, qui n'a pas droit à la parole.
Silencieuse, ouais, absolument. Hein. D'autant plus silencieuse qu'il n'y a personne dedans. Enfin, hein. Ouais,
oui, pardon. L'ami en lui-même. C'est quand même pas très
bah oriental. Oui, 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 c'est un. On ne peut pas dire ça. Alors, c'est un habit qui peut avoir ses beautés d'ailleurs, hein, mais c'est quand même un habit qui recouvre. Hein, ça, c'est sûr. Hein, même s'il peut avoir quand même aussi ses beautés, ses qualités. Hein, mais c'est un habit recouvrant, effectivement. Hein. Alors, oui, vous aviez d'autres idées d'un titre ou pas, mais L'armée des ombres, c'est un titre pas mal. Hein. C'est pas le titre de l'œuvre, mais c'est pas loin. Mais
Le monde du silence.
Le monde du silence. Écoutez, c'est bien aussi. Ça évoque d'autres choses aussi, mais ça me paraît pas mal non plus.
Hein. La soumission.
La soumission. En attendant le maître, pourquoi pas.
Condition féminine.
Ah oui, condition féminine, très bien. Vous aviez
d'accord. Bon, on va faire un tour. Hein.
Voilà. Donc, et vous appelez ça l'humanité
pacifiée.
Pacifiée avec des guillemets. Hein, voilà. Dans une vue orwellienne de la chose.
Ouais, c'est ça. Hein, voilà.
Comment il a appelé son œuvre, l'artiste ?
Alors ça, je vous le dirai tout à l'heure.
Non,
mais
à la fin.
Ouais, ce sera à la fin. Ah, hein. Mais l'armée des ombres, vous allez voir, on n'est vraiment pas loin. Même si il a appelé son œuvre que d'un mot, pas en français d'ailleurs, mais d'un mot. Et vous verrez que, je suis très content parce que je trouve que vous avez absolument.
Ça fait penser au
Pakistan.
C'est un mot en anglais.
C'est un mot anglais, oui.
Mais le mot armé, ça ne convient pas, parce que c'est pas, ils ne sont pas en bagarre.
Pardon ?
Le mot armé ne me convient pas.
Oui, voilà, c'est ça.
Ils ne sont pas en bagarre.
Je comprends. En même temps, vous savez, quelquefois, il y a des armées. Vous savez, une armée, quand elle n'intervient pas, elle est alignée, les gens sont les uns derrière les autres. Il n'y a rien de plus sage qu'une armée qui n'est pas en bagarre, comme vous dites. Vous voyez ce que
oui,
je veux dire.
Oui, qui défile. Hein.
Et évidemment, il y a aussi le fait que ce sont des femmes. Et les armées sont plutôt masculines, encore que. C'est-à-dire, on invente des tas de choses merveilleuses à notre époque. Hein. On met des enfants avec des... Enfin, vraiment, le 21e siècle est très doué pour inventer des horreurs. Hein, mais on est pas mal. Voilà. Donc, hélas, tout est possible. Hein. On a vu les femmes kamikazes et tout un toit. Hein. Vous connaissez toutes ces horreurs, hélas. Hein. Voilà. L'homme peut quand même être un merveilleux inventeur d'horreurs. Hein. Voilà. Mais vous avez raison, on est là devant des femmes qui suggèrent peut-être pas d'abord armée, c'est peut-être plutôt le côté aligné, autorité. Hein. L'armée répond évidemment à une autorité. Oui, c'est son rôle. Hein.
Il y a un côté embrigadement, là, personne ne relève la tête, oui. Personne ne proteste. Oui, personne
oui. À la soumission, décidément. Oui. Elle est très, très, très présente. Non, j'avais commencé à vous dire, j'étais très. Enfin, très content, à vrai dire, de tout ce que vous venez de dire, parce que je crois que c'est. Enfin, vous avez vraiment résumé tout, et que. Peut-être d'autres choses à dire. Enfin, voilà, je trouve qu'en peu de temps, et devant des photos de l'œuvre, vous avez vraiment pointé les éléments essentiels. Je pense que l'artiste, enfin, il n'est pas là, hein, mais à mon avis, voilà, vous ne direz pas autre chose que ce que vous avez dit. Hein. Je crois que vous avez vraiment bien vu ça. Oui, je crois. Et c'est aussi, tout en étant, vous le voyez, assez. À la fois elle est parlante, et puis en même temps, elle nécessite de dire plein de choses. Ouais, parce que, mine de rien, ça fait une demi-heure qu'on discute dessus.
Elle suggère beaucoup.
Hein. C'est pas non plus une œuvre, vous voyez, bing, en deux minutes, ça y est, on a tout vu, on a tout dit. C'est une œuvre qui a. Il y a des trucs dedans, quoi.
Elle suggère du recul, quand même.
Aussi, oui. Ah oui. Puis c'est une œuvre, vous le disiez, qui est assez sinistre aussi. Hein. Oui. Alors.
On peut se demander pourquoi c'est en blanc et pas en noir par rapport à tout ce qu'on raconte.
Pourquoi les personnages sont en blanc ?
Ouais.
Et c'est plus que du blanc, c'est d'ailleurs de ce brillant d'aluminium. Vous voyez. Je pense. Alors sur ce point-là, j'ai pas vraiment vu de commentaires. Je pense encore une fois que c'est beaucoup dû au fait que, si vous voulez, je trouve que ça ajoute un niveau d'ambiguïté. C'est-à-dire que c'est brillant. Clinquant, alors que c'est sinistre. Mais ça, c'est notre époque. C'est, on nous dit que tout va bien, que tout est parfait, que c'est formidable. On a Internet, on a Facebook, etc. Et tout est merveilleux. Tout ça, c'est formidable. Hein, on a rappelé vous Trump, qui à chaque horreur disait que c'était très bien, que tout allait bien. Ben, ça, c'est notre époque. C'est-à-dire qu'il y a des miroirs alouettes dans lesquels tout le monde va. On est tous sur Internet, Facebook et machin. Et bien après, on remarque que ça crée des catastrophes. Alors tout est clinquant, merveilleux, ça brille, total, cette brillance-là, elle mène quelquefois à des horreurs. Donc je crois qu'il y a ce côté-là, c'est-à-dire que c'est à la fois brillant et en fait sinistre, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et ça c'est un peu notre monde moderne, qui est fait du meilleur et du pire, qui est fait des choses les plus formidables et des choses les pires. Quelquefois d'ailleurs les meilleures choses peuvent amener au pire, parce qu'Internet c'est formidable, hein. En même temps, mal utilisé, c'est dramatique. Voilà. Donc je crois que c'est une œuvre qui est formidable, parce qu'elle elle pointe tout ça. Tout en faisant de manière à la fois forte et en même temps très suggérée.
Mais c'est aussi peut-être parce qu'une foule comme ça peut avoir un côté, enfin en tout cas,
Oui, pas positif, mais si.
Oui.
Parce qu'il y a un sentiment d'appartenance.
Mais oui.
De force.
Mais absolument.
D'union.
Mais tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, vous avez raison. D'ailleurs, vous savez, c'est ce qui fait que rien de plus beau qu'un défilé militaire de la place rouge hein, à Moscou. Hein. C'est beau, quoi. Quand on a la main, ça le fait, quoi. Sauf que, le 14 juillet à Paris, hein, voilà. Voilà, sauf qu'évidemment, il y a aussi des choses à dire, quoi. Vous voyez. Donc, effectivement, vous avez raison, il y a une certaine harmonie, une certaine. Des arbres bien alignés, c'est très beau aussi, hein. Voilà, donc c'est une œuvre qui est, je trouve, effectivement, très riche de toutes ces ambiguïtés. C'est clinquant et en même temps c'est sordide. Il y a une certaine ordonnance et en même temps c'est un enfermement. Il y a de la soumission et en même temps les gens ne sont pas là, c'est vide. Donc, espèce de dualité permanente, peut-être nous parle beaucoup du monde d'aujourd'hui, alors que peut-être pas si différent du monde d'hier d'ailleurs. Hein.
De quand cette.
Vous la verriez quand ? Je ne vais pas vous le dire, mais. Vous la verriez quand ?
2000.
Ouais.
Donc, ça a été
donc début de notre siècle, quoi. Oui, hein. Oui. Début de notre siècle. Bon, on verra tout à l'heure.
Moi, je pense à un mot de la guerre de 70, « Debout les morts ».
Ouais. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Ouais.
Parce que si elle se leverait, cette dame,
ouais.
200 personnes debout.
Ah oui, ce serait impressionnant. Hein. Ouais. Écoutez, je crois qu'on a pas mal, je ne sais pas quelle heure il a d'ailleurs, mais je crois qu'on aura pas mal évoqué, pas mal parlé de cette œuvre. Je pense que vous y avez vu beaucoup de choses. Je pense qu'on pourrait passer encore une heure dessus. Hein. C'est une œuvre sur laquelle décidément, il y a des trucs à dire, des choses à voir. C'est une œuvre qui est à la fois complexe et riche, évidente, et puis quand on commence à creuser, on voit qu'il y a d'autres choses. Une œuvre assez ambivalente, hein, mais qui vraiment résume beaucoup de choses de notre époque qui l'est assez ambivalente. Hein.
Est-ce que c'est une œuvre durable ?
À votre avis ?
Faut pas trop la bouger, hein.
Voilà, faut faire gaffe, ouais. Faut faire attention.
Et puis de temps en temps refaire le papier à lui.
Voilà, je pense qu'il y a alors effectivement, comme tu disais, je pense qu'il faut pas trop la bouger, parce que c'est quand même du papier à lui, etc. Voilà. Il y a quand même la possibilité aussi de temps en temps de reprendre. Hein. C'est-à-dire que beaucoup d'œuvres et d'installations aujourd'hui, faites par les artistes aujourd'hui, sont des œuvres qui peuvent être reprises. C'est-à-dire l'artiste le signale dans son protocole. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a même des œuvres que font des artistes qui ne sont même pas faites. C'est-à-dire l'artiste dit, bah, écoutez, voilà mon œuvre, c'est, je dis n'importe quoi, mais un triangle rouge de 3 cm de côté, 2,5 et 2,10, là, à 3 mètres du mur, du sol, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein. L'artiste ne vend pas une œuvre, il vend un protocole. Et après, chacun l'a fait au fur et à mesure. Puis on l'a repeint par-dessus, mais le protocole existe encore. C'est le protocole qui fait œuvre. Vous voyez ce que je veux dire,
hein. Elle est où, cette œuvre ?
Au Musée national de l'art moderne, mais actuellement, voilà. Mais elle n'est pas, c'est comme beaucoup des œuvres.
C'est une expo permanente.
Elle n'est pas, voilà, elle est pas présentée en permanence, mais elle l'a été, moi je l'ai vue. Oui.
C'est un artiste français ?
Ça, à votre avis ?
Non.
Non, pas français ? On verra, mais ça je vous le dirai à la fin. Hein, voilà. Mais de toute façon, au Musée national de l'art moderne, il y a des œuvres de tous les pays du monde. Hein. Donc voilà. Et tant mieux, d'ailleurs. Donc, ce serait plutôt un artiste pas français, mais une œuvre qui, donc, appartient au Musée national d'art moderne du début du XXe siècle. Quant à sa technique, on l'a vu, et son sens. Pardon ?
XXIe,
pardon. Alors, maintenant qu'on a, je crois, bien tourné autour de cette œuvre, je voulais vous montrer une quinzaine d'autres œuvres du même artiste, ce qui va nous permettre de silhouetter le personnage en question. Enfin, j'espère. Et peut-être de trouver à la fin de qui il peut s'agir. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, peut-être pas, mais on verra. Hein, ça vous va, ça ?
Oui.
Bien. Alors, je vous montre déjà, les œuvres que je vais vous montrer maintenant, une quinzaine d'œuvres, je les ai classées par ordre chronologique, depuis les plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Voilà, ça vaut un autre...
Ah, j'ai déjà vu celui-là.
Oui, vous l'avez déjà vu ?
Il me semble.
C'est bien possible.
Pas en vrai...
Ouais.
Un poulailler d'enfant.
Un poulailler d'enfant.
Des pigeons.
Alors, comment est-ce que vous décririez ça ? Pardon ?
Ils sont emprisonnés. Mais toujours le monde paye à grillage.
Alors, il y a effectivement un grillage. Et à l'intérieur du grillage, qu'est-ce qu'il y a ?
Des enfants.
Des enfants.
Des oiseaux, enfin des pigeons.
Et des pigeons.
Et d'une volière avec enfants et...
Une volière avec des enfants et des pigeons.
Et des pigeons.
Ok.
Est-ce que les enfants sont des pigeons ?
Est-ce que les enfants sont des pigeons?
C'est des mannequins quand même pas très... En paille, en... Je sais pas.
Alors voilà, les enfants ne sont pas des vrais enfants. Hein. Ce sont effectivement des mannequins. Oui. Ils sont faits en quoi?
En paille. Non, papier.
Papier.
Carton.
Papier mâché, habillés. Ils sont habillés. Ça, il n'y a pas de problème. Mais coloré. Mais sous le vêtement coloré des enfants, il y a. Non, pardon.
Ils n'ont pas de visage.
Ils n'ont pas de main.
Ils n'ont pas vraiment de main. Oui, c'est un peu des.
Il y en a un certain nombre qui sont couchés.
Certains
mais
sont couchés.
Ils sont mouillés par terre.
Ah ben, je ne sais pas pourquoi.
C'est la sieste.
Il y a des oiseaux.
Il y a des oiseaux, des pigeons.
C'est Hitchcockien.
C'est Hitchcock. Ça vous fait penser à quoi?
Les oiseaux de Hitchcock,
au fameux film.
Ah oui.
Hein,
ils n'ont pas l'air méchants.
Mais
les pigeons, ils sont vivants ou ils sont pas vivants?
À votre avis.
Non, ils sont vivants.
Ils sont vivants. Il y en a un qui vole au milieu, vous le voyez.
Il est sur la tête de la.
Oui. Donc les pigeons, ils sont vivants, ils volent.
D'où la nécessité du grillage.
C'est au jardin public.
Donc les enfants qui jouent avec des pigeons. Ça ne nous dit pas pourquoi il y a des enfants par terre. Hein.
Oui, voilà.
Ils sont tombés.
Ils roulent par terre, ils adorent ça, les gosses. Hein.
Oui.
On a adoré ça dans notre temps.
Ils ont trébuché.
Je sais pas, ils sont presque morts. Hein.
Ils
sont
envoyés
à des morts. Oui.
Tués par des pigeons.
Donc il y a des enfants tués par des pigeons.
Pigeons venimeux, c'est bien connu.
Des pigeons venimeux.
Ou alors, c'est les animaux, ça fait penser à Werther, où il y a les fourmis qui prennent le pouvoir, ou là, avec les chats et les rats.
Donc on aurait quelque chose qui vraiment rebondit un peu avec Hitchcock, dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est pas les oiseaux, enfin là c'est les oiseaux qui prennent le pouvoir, hein, les oiseaux qui. Mais effectivement, il y a d'autres contes ou autres qui évoquent des choses un peu équivalentes. Hein. Oui, pardon.
C'est dans une soupente.
Dans une soupente. Je crois que c'est une pièce à peu près normale, je vais dire.
Mais enfin, c'est encore une grande œuvre. Hein.
Oui, c'est une grande œuvre.
Dimension.
En dimension, oui.
Pourquoi avoir choisi des pigeons et pas d'autres oiseaux? C'est ça.
C'est plus facile.
Une question d'approvisionnement.
Je ne sais pas.
Oui, des pigeons, il y en a.
C'est l'oiseau des villes, quoi.
C'est l'oiseau des villes.
Voilà, je pense que c'est peut-être ça.
Peut-être ça.
C'est l'enfermement des enfants dans les villes. Hein.
Ah! Et alors,
il n'y a pas la même valeur d'espace.
Oui, un espace restreint. Tiens, ça vous rappelle de rien, ça?
Il n'y a pas de verdure.
Il n'y a pas de verdure, non.
C'est un parc, mais...
Une espèce de parc, oui.
Une espèce de crèche. Dans les crèches, ils sont fermés dans une crèche.
Oui.
Ils sont grands pour être dans une crèche.
Non, mais je veux dire... C'est
une crèche pour grands enfants.
C'est pas une cour de récréation, en tout cas.
Non. C'est ouvrez la cage aux oiseaux.
Mais ils ne font pas si vieux que ça, moi, je trouve.
Les enfants ou les pigeons?
Les enfants.
Je
ne sais pas donner de l'âge aux pigeons.
Non, c'est les enfants qui, en fait, dès leur naissance, n'ont pas le choix du lieu. Et ils sont dans la ville. Hein, et ils sont fermés entre eux. Les seuls animaux qu'ils voient, ce sont les pigeons.
Ah.
Ils ne connaissent pas d'autres animaux. Ils ne connaissent pas les vaches, par exemple, ou les poissons, je ne sais pas. Mmh.
Donc, on aurait là des enfants enfermés. D'ailleurs, il y a des grillages, hein, c'est vous qui l'avez dit. Hein.
Ouais.
Avec des pigeons. Alors, évidemment, les pigeons, c'est quelque part la nature, etc. Mais la nature urbaine, hein, effectivement. Hein. Donc, les enfants sont là, dans leur jardin d'enfants, on va dire. Hein.
Il n'y a pas un végétal.
Alors,
est-ce que ça ne pourrait pas être une critique des humains qui ne font pas attention aux animaux, aux végétales, et du coup, là, les pigeons prennent un peu le pouvoir dessus sur...
Donc, une sorte de prise au bord du bien. D'ailleurs, ça coïncidera assez bien à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous savez, ces raisonnements avec des contes où les animaux prennent le pouvoir, avec Hitchcock, qui n'a jamais qu'une sorte de conte moderne, hein, où sont les oiseaux qui ont le pouvoir, hein, et de manière quelquefois très agressive, quand même. Hein. On retrouve là la même agressivité ou pas?
Non.
Non, je ne trouve pas qu'il y a d'agressivité.
Enfin, la seule agressivité, c'est quand même les gamins.
Les enfants couchés.
Les enfants couchés.
Mais on a dit qu'ils se couchaient par terre parce qu'ils aimaient bien se rouler par terre.
Ah bon.
Non, je
ne
sais
pas.
Pas
hein. Non, on n'a pas l'impression qu'ils se roulent par terre.
Ils ne se roulent pas par terre.
Ils sont normalement.
Ils sont un peu tombés figés, alors.
Ouais.
Et les fillettes ont une coiffure qui ressemble un peu à des coiffures moyen-orientales.
Mmh.
Asiatiques.
Ah, il pensait à celle de gauche, par exemple.
Celle de gauche, ouais. Je crois, au fond, à droite.
Elle a une natte, je crois, l'enfant droit, il me semble.
Oh, il y a un petit garçon roux allongé. Hein.
Oui.
Il y a un peu tout. Il y a ça tous les autres. Ouais. Ouais, tous les types,
hein. Donc on aurait là, je résume, hein, une installation, à nouveau, hein, une installation dans une sorte de grande cage où il y a des pigeons et des mannequins d'enfants, d'enfants pas très jeunes, mais pas très vieux non plus, hein, autour, je sais pas, de 4-5 ans peut-être, hein, qui sont là, certains debout, d'autres par terre. Par terre, de manière un peu ambiguë, sont-ils en train de se rouler par terre? Sont-ils tombés? Sont-ils morts? Vous avez vous-même signalé ça. On se demande. Voilà. Dans une sorte de jardin d'enfants, ni triste ni gai, c'est un peu ce que je ressens, ce que vous avez dit. Hein, c'est pas triste parce que c'est assez gai, de la couleur, etc. En même temps, on se demande, il y a des gosses par terre, puis tout ça est un peu enfermé, vous avez dit quand même.
Hein. Et puis les pigeons, c'est bizarre aussi. On a l'impression que certains sont pas vivants.
Ah oui, certains des pigeons seraient pas. Ouais, certains pigeons seraient pas très vivants. Bon.
Ils ont peut-être marre de voler autour.
Ils ont peut-être marre de voler autour. Hein. Bon.
Non, mais on a un espace. Oui, quand on regarde tous les enfants, on a l'impression qu'il y a tout l'univers, enfin tout le monde qui a présenté tous les pays, enfin tous les.
Ah oui, une espèce de vision de l'univers très les enfants voilà, peut-être.
Ouais. Il y en a qui font japonais, il y en a qui font anglais.
En fait, les enfants, c'est une sorte de métaphore du monde, peut-être.
Oui, ouais. Ils n'ont à peu près pas de relation entre eux, sauf ceux de gauche, peut-être.
Mm-hmm. Pas de relation entre eux, ils sont un peu plantés là. Hein.
Oui, ouais. C'est pareil.
Ouais. L'installation est encore beaucoup plus grande, là, par exemple, à gauche.
Je crois qu'elle est plus grande. En tout cas, elle continue encore à droite, mais sans doute également à gauche, oui, vraisemblablement. Hein. Donc là, on en a effectivement une portion. Hein.
Est-ce que ça pourrait pas représenter aussi la pollution?
Ah, l'idée de la pollution, à travers quoi vous la verriez?
À travers ces animaux aussi qui sont par terre,
oui.
Qui n'ont pas l'air trop bien, les enfants aussi par terre.
Oui.
Le monde de
qu'est-ce que vous disiez aussi, vous, quelqu'un d'autre, d'ailleurs, sur le côté pigeon, oiseau des villes, il n'y a pas la moindre herbe, plante. Donc on a l'impression d'une nature très urbaine. Oui. Ouais.
C'est quoi le.
Il n'y a pas un bidon?
Oui, il y a le bidon, oui.
Je pense que c'est de l'eau.
C'est de l'eau, ça.
Ah bon.
Je pense que c'est de l'eau pour les pigeons, il faut quand même voir.
Et à gauche, il y a quelque chose de noir.
Aussi. Oui, c'est une fontaine, non?
Je ne sais pas du tout ce que c'est que ça. Ça, je ne sais pas.
En fait, si c'est le même artiste avec ce que l'on a vu précédemment,
c'est le même.
Ce qui ressort dans les deux, c'est cette sensation de monde moderne qui étouffe. Mm-hmm.
Bien, l'enfermement.
Oui, bien, qui étouffe et asservi. Donc il y en a certains, les enfants, qui ont presque plus envie de vivre. Quoi. Ils disent, bon, mais tant pis, hein, je vais m'en sortir. D'autres qui essayent de se battre. Et ça rappelle un peu, peut-être cet artiste en tête, toujours ce monde moderne, où qu'il soit, que ce soit sur n'importe quel continent, qui peu à peu, est identique et étouffant.
D'accord, donc quelque chose finalement qui résonne très bien avec l'œuvre qui a été évidemment du même artiste, hein. Donc toujours cette idée d'enfermement, et puis qui pose des questions très liées à nos modes de vie actuels finalement, hein. Et qui résonne avec les questions écologiques dont on parle de plus en plus d'ailleurs. Hein.
Moins sinistre mais pas plus gai.
Voilà, c'est ça, moins sinistre mais pas plus gai. Avant on était vraiment dans une chose sinistre qui avait l'air gai par le côté brillant et argenté, mais qui était sinistre. Là, c'est moins sinistre, c'est dehors. Il y a des gosses, il y a des vêtements,
oui, mais ça. Oui, mais les gosses, ils sont quand même ceux qui sont couchés, ils sont morts, et on leur a enlevé leurs chaussures.
Ouais.
Ils n'ont pas de chaussures.
Ouais.
Ils ont la tête sur le côté. Et puis, ils sont séparés les uns des autres, ils ne jouent pas ensemble.
Non, effectivement, ils n'interagissent pas.
Il y en a presque autant qui sont couchés que debout.
Que debout, oui, il y en a pas mal de couchés. Mm-hmm. Hein.
Oui. En bas, à droite, les deux petites chaussures rouges. La première petite fille, on voit une trace, comme si c'était des morceaux de
par ici?
Non, plus à droite.
celle voilà, plus au fond.
Beaucoup plus à gauche.
À gauche. Non, ah là.
Tout en bas.
Ah.
Voilà, à gauche.
Gauche.
Ah, là, il y a une rainure.
Ah là, ah, la rainure que vous avez là, c'est le lien entre deux parties du grillage, en fait.
Ah oui.
Vous voyez, il y a une espèce de couture du grillage ici. Voilà. Bon, mais je pense que vous avez vu pas mal de choses. Je propose qu'on passe à une autre œuvre du même, hein, pour qu'on complète encore une fois notre grille de lecture de l'artiste.
Ça, c'est la Kaaba, non ?
Ça, c'est la Kaaba. C'est quoi la Kaaba ?
Voilà.
C'est la
plus tombeau de la Mecque. Okay.
C'est ça. Donc ce serait la Kaaba. D'abord, techniquement, c'est quoi ça ?
C'est le toit.
C'est une peinture.
C'est une peinture. Donc évidemment, là, c'est une peinture. Hein.
Ouais.
Donc c'est complètement différent de ce qu'on a vu avant.
Ouais.
Avant, on avait des installations. Là, on a une peinture.
Oui.
Tu vois, de très traditionnel pour le coup.
C'est la Kaaba qui coule.
La Kaaba qui coule. Ouais. Vous voyez, elle a plus de base. Elle coule.
Toujours aussi sinistre.
Toujours aussi sinistre. La Kaaba, c'est la pierre noire.
C'est pas coloré.
C'est pas coloré. C'est noir et avec un liseré blanc. Hein.
Non, mais le fait qu'elle s'écoule comme ça, qu'on a l'impression qu'elle est en train de fondre.
Ouais.
C'est ça qui donne.
Ouais.
Cette
donc cette espèce de fonte là, oui. Comme ça. Hein. Ouais.
Oui, de destruction en fait.
Ouais.
Donc il a un côté iconoclaste.
Ça résonne comment avec ce qu'on a vu précédemment et deux autres œuvres, vous le trouvez?
Il y a révolte concernant les dames, il y a une révolte ici, les gamins, ce serait palestinien, ça ne m'étonnerait pas.
Donc on est dans quelque chose qui évoque l'idée d'une révolte. Vous parliez d'une révolte plutôt féminine, justement, ou féministe,
justement.
Ah. Non, vous disiez des femmes, c'est pour ça que...
Oui, mais parce que les...
La première œuvre, c'est des femmes.
Les albales, c'était des femmes.
C'était des femmes, oui. En tout cas, des œuvres qui marchent ensemble parce qu'elles se révoltent contre des choses, en tout cas. Ouais. C'est ça.
J'ai envie de dire, rien ne va plus.
Rien ne va plus.
Oui, mais les enfants ne se révoltaient pas. Ils subissaient. Mais donc, la différence, c'est que les enfants subissent. Ils ne sont pas dans la révolte.
Ou on va vers la fin de quelque chose.
Mmh.
Ce qui est étonnant, c'est d'arriver à suggérer ce volume par ces parties blanches irrégulières. C'est de la géométrie dans l'espace, quand
oui.
même.
Ouais. Ouais. Oui, je l'écraille. Oui, je trouve aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est plat, c'est de la peinture en noir et blanc, hein, monochrome. Malgré cette dégoulinure, on va dire, déliquescente, on est quand même devant un rendu d'un relief. Hein. Donc c'est assez surprenant, effectivement.
Et si on regarde bien les parties noires, on peut arriver à voir des silhouettes.
Ah ouais.
Dans la partie maigre, par exemple.
À droite, là ?
Non,
vous avez de l'imagination.
Oui, ah oui.
C'est bien, on est là pour en avoir. Alors c'est bien.
Ah si, moi, je vois plein de silhouettes.
Oui, oui, pourquoi pas.
Extrême,
ah juste oui, peut-être là, je vois ce que vous dites. Une sorte de foule, peut-être.
Une sorte de foule, oui, juste là. Au-dessus de la bande blanche. Voilà,
oui, comme si on avait des personnages avec leur tête. Ah, oui, c'est pas mal. Oui. Je n'avais pas pensé, hein, mais...
Ah bah, bon.
Et on est là pour ça, c'est bien. C'est bien.
Moi je fais un parallèle avec le linceul de Turin, c'est osé, hein.
Oui.
Mais le linceul de Turin qui est un peu dégoulinant.
Oui,
aussi.
Oui, oui.
Et là, on recadre les choses. Mais...
Oui. Ah oui, une sorte de linceul, mais de la Kaaba cette fois.
Oui, hein.
Pas mal. En tout cas, ce côté dégoulinant vous marque, vous frappe. Hein,
oui, parce que c'est la déliquescence de quelque chose.
De quelque chose. Je vous montre une œuvre suivante.
Là, ça fait mal.
C'est des miroirs.
Donc on est à nouveau, oui, un reflet. On est à nouveau devant une installation. Hein.
Oui.
En plein air. Là, il y a de la végétation. Alors, c'est constamment changeant, forcément.
Et oui. Et oui. Et qui est dans l'ambiguïté, là, finalement ?
La forme des miroirs.
Alors, il y a d'abord la forme des miroirs. Ils ont une forme qui n'est pas anodine.
Ouais,
ça fait penser aux
ogives.
Oui,
aux ogives.
Est-ce que c'est les silhouettes des dames de tout à l'heure ?
Ah.
Des ogives ?
Oui, ce serait moins. Alors, oui, c'est fait aussi penser à des ogives.
Un vitrail aussi.
Oui, un vitrail d'église, ouais.
et le ciel est inversé, le ciel est en bas.
Et voilà, c'est ça qui est mieux, parce que la manière dont les miroirs sont mis fait qu'on a au milieu des arbres qui sont le sol, hein, et au milieu du sol, le ciel. Donc le ciel arrive au sol, quoi. Donc effectivement, ça modifie absolument la perception.
Alors, est-ce que c'est vraiment des miroirs?
Ce sont des miroirs. Oui, ouais, des miroirs.
On voit nettement les feuilles. On voit l'horizon, effectivement.
Alors, l'horizon, bien. Alors là, évidemment, ça a été placé là, mais cette installation peut être placée ailleurs. Hein. Il y a d'autres possibilités. Elle a été placée, je crois que je vous montrerai tout à l'heure ou dans un instant, une photo de la même installation ailleurs. Ça peut être décidément placé dans différents lieux. Hein.
En fait, c'est pour définir le monde inversé.
Une manière de définir le monde inversé, oui.
Que le monde est de sans tout, quoi, c'est vrai.
C'est-à-dire le ciel est sur Terre, la Terre est au ciel.
C'est le monde à l'envers.
Oui, une dimension monde à l'envers, décidément. Donc, vous verriez finalement une cohérence par rapport... Parce que, formellement, c'est très différent de ce qu'on a vu d'abord. Hein. C'est pas une peinture, donc c'est pas du tout comme la pièce précédente. Alors c'est une installation comme les deux pièces du départ, hein, mais en même temps elle est très différente, parce que là, c'est pas comme les petits mannequins qui sont des choses faites, quoi, hein, c'est des miroirs découpés puis qu'on place, quoi, alors d'une certaine manière.
Oui, c'est un peu plus gai.
C'est plus gai aussi.
Et il y a des marronniers ou du...
C'est pas ce que c'est comme arbre. Non, non. Pas ce que c'est. Peut-être pas marronnier, mais...
On dirait un frêne...
Oui, ça, je vous laisse. Je ne sais pas ce que c'est. Frêne, peut-être, oui. Oui. Je ne saurais pas vous dire. Moi, là, je ne suis pas doué du tout pour ça.
Les miroirs tirent vers la droite.
Oui. Certains sont vers la droite, vers la gauche. Alors, je ne sais pas si la photo suivante n'est pas une photo de la même œuvre ailleurs. Autrement, ce serait une autre œuvre. On va voir. Si, voilà, c'est toujours cette même, mais ailleurs, vous voyez. Voilà, là c'est sur une plage, vous voyez, enfin, on dirait un bord de mer.
Mais il y en a plein.
Là, il y en a beaucoup. Mais vous voyez, effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au ciel. Hein. La mer est sur le sable, le sable est dans la mer. Enfin, voilà. Vous avez remarqué aussi comment le dos de certains miroirs se reflète sur le dos. Enfin, voilà. Oui, ça fait comme des portes, vous le disiez. Oui. Mais vous parliez, quelques-uns d'entre vous parliez tout à l'heure de verrières ou de vitraux. Vous savez, c'est un peu l'impression qu'on a dans les cathédrales, quand il y a plein de... Pensez à la cathédrale d'Amiens, dont on a parlé sur d'autres ondes il y a quelques temps, où il y a comme ça des tas de verrières les unes derrière les autres. C'est un peu ça dans un désordre, vous voyez ce que je veux dire.
Et là, on tourne le dos à la mer pour la voir.
Exactement. Voilà. C'est bon.
C'est vraiment un désordre.
T'as un désordre ordonné... Je sais pas, t'en penses quoi ?
Moi, initialement, moi, j'avais vu une sorte de pont qui...
Oui, moi aussi.
Des arches.
Ah, d'accord. Okay.
Des arches et on voyait à travers.
Je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Ben oui, mais alors justement, c'est amusant parce qu'il y a une dimension de trompe-l'œil dans ce genre de choses.
Ah ouais.
Oui, alors qu'en fait, c'est un grand espace légèrement vallonné par lesquels ont été posés...
Voilà.
Avec des menhirs.
Oui, il y a un peu de ça. Alors, c'est amusant parce que vous parliez de fenêtres, de portes, hein, de verrières, etc., de menhirs. C'est-à-dire qu'il y a ce que cette forme-là, qui est une forme pas anodine, hein, évidemment, on peut penser que c'est le socle d'un fer à repasser mis sur le côté. Bon. Mais on peut aussi voir ce que vous disiez, c'est-à-dire l'idée du vitrail ou de la baie gothique, etc. Donc il y a presque une dimension religieuse, vous voyez ce que je veux dire.
Ça pourrait être des tentes aussi, un campement.
Ça peut faire penser à ça.
Ouais.
En tout cas, ce que vous retenez là, je crois, c'est une espèce de mise en abîme de l'espace, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire la façon dont les choses sont mises fait que le ciel arrive sur Terre et l'inverse, ou bien que la mer arrive sur Terre ou l'inverse. Quoi. Hein,
c'est sur un terrain aride.
Là, en l'occurrence, oui, même si la mer est à côté.
Oui. Puis on tourne le dos.
On tourne le dos à la mer. Là, vous êtes dans l'eau, vous.
Oui, c'est ça.
Alors, on ne vous voit pas parce que c'est quand même une diapositive. On regarde la suivante. Toujours le même artiste. Hein.
Alors là, il représente des buildings.
Des buildings.
Une ville la nuit.
Une ville la nuit.
Est-ce que c'est pas des réalisateurs?
Des...
Moi, j'y pense.
Oui, il y en a certains, ça fait rien.
Alors, des réfrigérateurs.
Ouais, ouais.
Mais donc, c'est des réfrigérateurs ou une ville la nuit ?
Une certaine uniformité.
Oui.
C'est répétitif.
Oui. Ça nous rappelle quelque chose, ça ?
Enfin, les États-Unis.
Oui, alors ça peut effectivement rappeler les buildings des États-Unis. Oui. Hein. Ça peut rappeler des réfrigérateurs qui sont tous un peu pareils. Hein.
Oui, parce qu'il y a deux blancs au fond, là, on dirait bien des réfrigérateurs, hein, c'est vrai.
Et il y a peut-être des dames à l'intérieur.
Ouais.
Ah, celle de tout à l'heure.
Ça fait penser le monde à les promenader.
Oui, ça fait penser effectivement à ça. Mais là aussi, vous voyez, vous avez bien en deux mots résumé ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'on est effectivement devant des réfrigérateurs, mais qui sont mis de telle manière et recouverts de telle manière que ça fait effectivement penser, vous savez, aux grandes villes du monde entier, d'ailleurs. Hein. Quand vous arrivez à New York, à Chicago, à Shanghai, vous voyez ça aujourd'hui.
Ce n'est pas des images projetées sur les...
À votre avis ?
Moi, j'ai l'impression.
Oui, c'est possible.
Ouais.
Des images projetées, oui. Sur les...
Sur les réfrigérateurs.
Oui.
Et c'est une installation encore.
C'est encore une installation.
Ça, oui. Et on a envie de marcher dedans et de s'enfoncer.
Oui. Ça a un côté ville, décidément. Hein.
Oui, oui, très ville. Mais le jeu des lumières, on voit profond, on a l'impression que c'est éclairé.
Oui, absolument. Oui, comme si le centre-ville était là-bas. Voilà, c'est là où il y a les cinémas. Quoi, hein.
Ils ont l'air immense.
Oui.
Et il y a ce contraste entre les blancs et les noirs qui fait que ça fait brillant.
Oui,
brillant,
oui.
Comme l'aluminium. Il y a toujours un peu cette idée de brillance.
Oui, ça nous rappelle l'aluminium du départ, vous avez raison. Oui. C'est-à-dire qu'on est un peu dans ce qu'on a vu au départ, toujours ce côté clinquant, hein, ça brille, c'est gai, ça. Parce qu'en fait, ce sont bel et bien des réfrigérateurs, mais couverts de petites glaces.
Oui.
C'est des petites glaces, des mosaïques de glace.
Oui.
Hein. Donc effectivement, ça donne absolument l'idée... Et de cette ambiguïté qu'on a déjà vue dans plusieurs œuvres, hein. Quand on voit ça dans l'emblée, moi je me suis aussi fait prendre des débats. J'y ai vu une ville. C'est vue de ville la nuit. Voilà. Voilà. Et en fait, ce sont des réfrigérateurs, donc c'est vous, haut comme vous et moi. Hein, voilà. Simplement, c'est organisé de telle manière qu'on a l'impression d'une ville, effectivement, avec là-bas le downtown, hein, où on a envie d'aller pour aller à Broadway ou je ne sais pas quoi. Hein, voilà. Mais c'est des réfrigérateurs. C'est-à-dire que finalement, la ville, c'est un peu ça. Je veux dire que...
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, une lisse qui fait le tour.
Oui, mais alors qui en fait reflète ce qu'il y a devant, c'est-à-dire nous, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une installation qui est faite dans une salle, et c'est...
Des jeux d'artistes.
Disons que c'est les... Là, c'est dans un musée, en l'occurrence, la photo a été prise. Hein. Je vous dirai lequel tout à l'heure, peut-être. Et si vous voulez, c'est ce qu'il y a en face de ça qui se reflète dans les glaces des réfrigérateurs immobiles.
Voilà. Oui, c'est pas les petits miroirs qui sont peints.
Voilà.
Ça pourrait être une critique de la société de consommation.
C'est effectivement un peu ça. C'est une manière de montrer comment, effectivement, la ville, c'est, j'allais dire un peu rapidement, un peu bêtement, rien moins que ça, quoi. C'est-à-dire, finalement, des réfrigérateurs côte à côte, quoi. Chaque appartement, finalement, c'est une cuisine expansée, quoi. Hein, pour aller un petit peu vite. Hein.
Et depuis tout à l'heure, on voit que les choses froides
qui sont
sans vie.
Oui, il y a ce côté-là. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du côté brillant, et les deux marchent assez bien ensemble, finalement. Hein. Rappelez l'installation du départ, ces femmes, Julie, etc. Ça avait un côté très métallique, donc un côté froid, mais puis il y avait beaucoup de monde, hein, mais du monde vide. Hein. Et là, c'est un peu pareil. C'est une ville, il y a beaucoup de monde, voilà des tours, n'est-ce pas, très grandes, on se dit, il y a beaucoup de monde, etc. Et pourtant, tout ça est complètement froid, quoi, hein, sec.
C'est clinquant.
Et clinquant. C'est décidément c'est une de choses du monde moderne, peut-être du monde d'autrefois, d'ailleurs, je ne sais pas, mais enfin, une espèce de miroir aux alouettes, quoi. On va quand même faire ça, voilà, on aime ça, n'est-ce pas ? On passe à la suivante pour continuer notre petit voyage.
C'est du sucre, oui. Teinté, oui.
Il a mis de l'eau parce que ça fond.
C'est cool. C'est cool.
Donc effectivement, on a un tas de sucre qui s'écroule petit à petit.
Avec de la suie.
Avec quelque chose qui fait s'écrouler le sucre, oui.
Encre de Chine.
Encre de Chine, peut-être.
Ah, oui.
Non. Peut-être.
Colorant noir.
C'est le rimmel qui coule.
Alors, je crois précisément que ce qui a été utilisé pour faire que le tas de sucre impeccable qui, au départ, petit à petit, ploie sur lui-même, je crois que c'est de l'huile. Ah, vous voyez, de l'huile qui, petit à petit...
L'huile
aussi.
De vidange,
hein, vu. Peut-être. Il y a aussi que c'est en noir et blanc, donc oui. Vous voyez, peut-être que le contraste...
C'est encore la cabane.
Pardon ?
C'est encore la pierre.
Ça fait beaucoup penser à la Kaaba, effectivement. Hein.
Ouais. Donc il est musulman.
Oui, à l'immeuble aussi.
Donc vous verriez quelqu'un qui est musulman. Ouais. Parce que décidément, quelqu'un qui est travaillé dans cette question, on l'a vu dès le départ d'ailleurs. Hein. Vous avez dès le départ bien compris ça. Hein. Ouais. Ok, on va garder ça en tête, on va voir. Hein.
Comme il cherche le frais avec les frigos.
Peut-être. Finalement, tout ça se tient. Et alors là, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que vous voyez quatre photos d'une vidéo en fait. Hein. C'est-à-dire que là, évidemment, je ne vais pas vous montrer la vidéo, hein, mais là, vous avez quatre moments d'une vidéo qui, je sais pas, je crois que ça dure 4 minutes 50, quelque chose comme ça, montre ce tatou qui, petit à petit, ploie, quoi. Hein,
voilà. Donc, il a mis le liquide en plein milieu.
Alors, j'ai pas vu la vidéo, je n'ai vu que ces quatre photos. En tout cas, la vidéo montre ça, petit à petit, le tas de sucre qui, oui, qui fond sur lui-même, qui s'écroule sur lui-même. Ouais.
C'est toujours pareil, cette notion
d'anéantissement. Toujours. Ouais. Hein, ça fait penser à la Kaaba tout à l'heure, qui était noire.
C'est noir aussi.
Hein,
c'est noir. Qui était noir et blanc aussi. Ouais. Et là, ouais. Le noir et blanc.
Ouais. Ouais. Sur le plan formel, par rapport à ce qu'on a vu avant, ça vous fait penser à quoi? Ça vous suggère quoi? Pensez que tout ça, tout ce que je vous montrer, est l'œuvre d'un seul et même artiste.
La destruction progressive.
Alors, c'est vrai. Et sur le plan des de ce qu'on appelle le médium, c'est-à-dire ce qu'il utilise comme moyen de faire ses œuvres, qu'est-ce que vous auriez à dire?
C'est des choses ordinaires.
C'est des choses ordinaires, oui.
Des miroirs, des frigos,
du sucre. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que ces médiums ou ces médias, ils sont très différents. Parce qu'on a vu quelqu'un qui fait de la peinture. Rappelez la Kaaba, c'est de la peinture.
Oui,
hein. C'est quelqu'un qui fait de la vidéo. Ça, c'en est. C'est quelqu'un qui fait des installations.
Oui, mais il suit sa ligne de conduite avec tout ce qui l'entoure.
Voilà.
En fait.
C'est-à-dire qu'on a des médias ou des médiums complètement différents. Installation, peinture, sculpture,
mais qui représente toujours la même chose.
Voilà, c'est-à-dire qu'on a une sorte de cohérence du discours, mais de grande diversité de la manière de le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quand même une chose qui est intéressante, parce que beaucoup d'artistes sont sculpteurs, peintres, que sais-je encore. Hein, voilà. Ouais. Là, on a quelqu'un qui est vraiment très multimédia, si j'ose dire. Hein.
D'accord.
Une chose qui est, je crois, effectivement très frappante. Hein. On regarde...
Encore une installation.
C'est des blocs de pierre.
On dirait des stèles mortuaires couchées.
Oui. Effectivement. Alors, vous disiez, est-ce que ce sont des pierres? Ce sont des parpaings, en fait. Hein.
Des parpaings, d'accord.
Hein. Mais effectivement, on a là quelque chose qui fait penser à une sorte de cimetière, mais qui aurait été couché. Bon.
Ouais. Vous savez, les alignements avec les sucres, et puis on les fait tomber.
Décidément, on rebelote avec le sucre.
Ouais.
Je crois que j'en ai un détail derrière.
C'est encore un manque de solidité.
Voilà. Oui, donc on est toujours dans cette espèce d'idée de mouvement. Ça ne tient pas debout, quoi. Hein. En même temps, c'est du parpaing. Hein.
C'est solide.
Par rapport à d'autres œuvres, qu'est-ce qui vous...
L'alignement,
la répétition, hein. Ça fait beaucoup penser à la première œuvre, effectivement. On n'est pas surpris que ce soit le même artiste, en fait. Hein.
Oui, la densité.
Oui, la densité, la quantité. Okay. Il y a beaucoup de choses, c'est très dense. Hein.
C'est... L'uniformité, parce que.
L'uniformité.
Aucune pierre.
Absolument, il n'y a rien qui dépasse. Hein. Donc, une sorte d'uniformité, de permanence, comme ça.
Et là aussi, c'est un matériel de base.
La répétition, matériel de base.
Ah, c'est vrai.
Hein, donc, ce n'est pas des choses.
L'absence d'humanité, finalement. Il n'y a pas un humain dans
ce
qu'on a vu jusqu'à présent.
Oui, absolument.
Les gosses n'étaient pas des humains.
Ben, c'était des mannequins. Alors, c'est des représentations. Les artistes ne font que représenter.
Oui, d'accord, hein. Ça pourrait être quelqu'un.
Oui, oui, oui.
Il pourrait y avoir une belle nana au cou.
Donc, vous voyez là, finalement, quelque chose qui nous étonne pas, finalement, chez un artiste dont il a vu qu'il maniait des tas de choses très différentes. Hein. Parce que là, on a une œuvre qui, finalement, est assez loin de la première. En même temps, elle est très près dans l'organisation, l'alignement, la monochromie, la répétition. l'organisation très stricte, le côté un peu effondré, mais un effondrement organisé, vous voyez.
Mais c'est un artiste qui a des moyens, parce que arriver à faire tout ce qu'il a fait...
C'est un artiste qui maintenant travaille, enfin disons que tous les, disons que ça fait 30-35 ans qu'on parle de lui quand même.
Ah ouais. Donc c'est un monsieur
c'est quelqu'un qui... il est tout jeune, hein, mais il est... Voilà, il ou elle d'ailleurs, parce que je ne sais pas. Hein. C'est tout.
Pour régler les parpaings...
ces artistes-là sont des artistes qui travaillent avec du monde, hein. comme autrefois. Hein. Les artistes d'autrefois, il y avait ceux qui étaient seuls, il y a également ceux qui ne l'étaient pas. Hein. Enfin, c'est toujours le nom de Rubens, c'est vrai. Rubens ou Lebrun avait des kyrielles de gens autour d'eux. Hein. Mm-hmm. Mais Van Eyck aussi, enfin voilà, donc c'est habituel. C'est...
Alors, je me pose toujours la question, comment il valorise ça?
C'est-à-dire?
Je ne sais pas, il a acheté un lot de parpaings, ouais. et les aligne, qui finance?
Ah bah lui?
Lui, ouais, sûrement. C'est lui.
Ouais. Mais je pense qu'il a un beau discours quand même pour un remodel tout.
Il a un, pardon?
Un bon discours pour un remodel tout.
Bah celui que vous avez. En fait, c'est le même.
C'est le même. C'est passé dans un quelque chose.
Voilà.
Par contre, c'est toujours le même message que l'on reçoit.
C'est pessimiste quand même.
Ah, c'est pas un message très optimiste. Et je suis pas sûr que le monde soit très optimiste. On vit quand même une période spéciale. Alors, il vaut peut-être d'ailleurs mieux se dire qu'il y a des problèmes et qu'on les affronte plutôt qu'il n'y a pas de problème et ne les voyons pas. Il y a deux attitudes aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. Hein, il y a ceux qui disent, bon, il y a des problèmes, il y en a, traitons-les, regardons-les en face et on les traite. Puis ceux qui disent, non, il n'y a pas de problème, on fait comme si de rien n'était et recommençons le monde d'avant. Hein.
Mais ils sont tous sectionnés, ces parpaings.
Absolument.
Ils ne sont pas enfoncés.
Tout à fait.
Ils sont tous taillés.
Ouais, absolument.
Avec tout le même angle.
Absolument. Ouais. Absolument. Ce qui d'ailleurs peut-être nous montre encore une autre chose à l'intérieur du travail de ce
artiste. Il y a une intervention humaine.
Oui, absolument.
En plus.
Et qui est de l'ordre de quoi alors justement?
La géométrie.
La géométrie. Et en plus encore un peu plus loin.
À part l'uniformité.
Ouais.
Moi je me posais des questions sur l'équilibre.
Oui.
Parce que j'avais pas vu qu'ils étaient coupés.
On ne voit pas le premier, alors après ils sont tous parallèles.
Oui. En fait, chacun tient par lui-même.
Par lui-même, oui.
Donc en fait, c'est un faux déséquilibre, vous voyez.
Ah, alors il y a le calcul physique.
Il y a le calcul,
voilà. Il y a donc du calcul, il y a de la mathématique, c'est basique, parce que c'est pas non plus très compliqué, c'est pas le problème d'ailleurs. Il y a quelque chose, mais que peut-être vous avez vu dans au moins une des œuvres qu'on a vues d'abord, qui est autour de l'architecture.
Alors, on a l'impression qu'ils sont creux quand même.
Ça dit même creux. Ça pèse.
C'est creux.
Bon, l'artiste dont je vous présente des œuvres, hein, est également quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la question de l'architecture. Hein. Mais, vous savez, on pourrait citer des quantités d'œuvres d'architecture, notamment dans des périodes extrêmement anciennes, hein, qui reprennent cette idée de l'organisation, de la géométrie, de l'alignement, etc. Hein. Je pense notamment à des talus au Proche-Orient, hein, où il y a... oui, vous vouliez dire?
Là, c'est les trapèzes...
Frontal.
Oui,
absolument. Oui. Oui, ils sont vraiment tous placés de manière systématique. Hein. Et donc cette idée de couper les moellons, de faire que ça tienne, etc., c'est aussi une démarche de base, mais aussi architecturale. Hein. Mais chez quelqu'un, rappelez-vous la cabane tout à l'heure, elle est beau. C'est aussi ça.
Moi, je me pose la question de savoir si... On appuie un tout petit peu, ça tient debout.
On ne doit pas être loin.
On ne doit pas être loin de la rupture.
Ouais. Ouais. Mais ce qui nous étonnera pas chez ces artistes.
Oui, d'ailleurs,
avec
les bandes de
il y a déjà basculé sur le premier là.
Le fait que ce soit tout juste, voilà, à la limite de l'instabilité, ne nous étonnerait pas.
Le monde instable.
Absolument.
En apparence stable, mais.
Voilà. Puis c'est du lourd, etc. C'est comme nos dames de tout à l'heure, qui étaient si nombreuses, et pourtant il n'y en a aucune.
Ouais.
Tout plein, tout vide.
C'est de la semoule.
Donc on aurait de la semoule.
Ouais.
Ou c'est un gâteau.
Un
gâteau avec du chocolat.
Non,
c'est dessiné. C'est dessiné, il a dessiné ça.
Donc on aurait un tas de semoule.
Oui,
il a
dessiné.
Mais c'est pas du sable, ça.
C'est pas du sable.
Non, c'est de la semoule.
Et alors dessus, c'est quoi?
Eh bien, c'est des creux, il a creusé, il a récupéré.
Voilà, il a dessiné.
On voit le fond.
Ah, d'accord. Et donc, il l'a dessiné bien, parce que votre semoule, si c'est de la semoule, elle est quand même sur une certaine épaisseur. Hein. Vous voyez ce que je veux dire?
Il faut que ça tienne, non.
Il faut que ça tienne. Donc, à mon avis, vos creux sont...
Non, parce qu'au milieu, c'est pas si épais que ça.
C'est quand même... Regardez les berges, là. Les berges, elles sont épaisses.
Mais pas au milieu. Au milieu, c'est pas très épais. Ou alors, il a dessiné des formes qu'il a posées dessus.
C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'il a effectivement placé... sur cette espèce de petit plateau. Hein.
Oui.
Vous avez raison, c'est la semoule. Hein. C'est-à-dire qu'avec cette semoule, il fait une sorte de petit plateau, et là, il a placé ça.
Et toujours les formes géométriques.
Toujours les formes géométriques qui évoquent quoi, qui suggèrent quoi?
Oui.
La ville. Oui.
La ville, vue du dessus.
Oui, vue du dessus, une sorte de maquette. On a une sorte de vue cavalière.
Et des maisons du sud, parce qu'elles sont rectangulaires.
Oui.
Ce fût
qui évoque un cercle.
C'est peut-être un puits.
Mais c'est un bassin, ça.
À quel endroit? À gauche, là.
À gauche.
Oui.
Elle est moins à angle droit.
Et ça vous rappelle des choses, ça?
Elle est dite à l'Afrique du Nord.
Oui, en Afrique du Nord.
Oui, ça fait un peu désert.
Ça fait un peu désert, oui.
Avec des terrasses.
Oui. Oui, moi je pense aussi, vous savez, à ces sites proche-orientaux qu'on appelle les tels.
Oui.
Vous savez, au Proche-Orient, il y a des tels, beaucoup des villes anciennes, Proche-Orient, c'est comme ça.
Et puis la semoule aussi.
Alors la semoule, bien sûr, fait tout de suite référence à la cuisine liée au domaine musulman. Hein.
Ouais.
Mais ça fait effectivement penser aux tels, c'est-à-dire à ces villes anciennes qui se voient aussi bien d'ailleurs en Afrique du Nord qu'au Proche-Orient, hein, parce que ça forme dans des étendues assez plates des sortes de petits plateaux comme ça, mais qui sont en fait les restes de la ville elle-même.
C'est envahi par les dunes.
C'est ça, si on envahi par les dunes, le sable a pris dedans.
C'est désert, il n'y a pas d'arbre non plus.
C'est ça. Donc on a là, vous voyez, ça renvoie.
C'est pas un flamand. Hein.
Non, effectivement.
Mais c'est instable, comme si on souffle dessus, ça.
Ah
oui. Ben oui, c'est de la semoule, donc voilà.
C'est pas bien ça. Ben non, mais c'est tentant.
Ah, c'est vrai.
C'est vrai.
Oui, c'est effectivement tentant.
Non, mais ça doit être enfermé dans un trou.
Surtout si on aime le couscous, ce qui est mon cas.
Non, mais là, elle est crue, hein, alors donc.
Il y a un petit travail à faire. Voilà, hein.
Les carrés, enfin, les parallélépipèdes, sont relativement alignés. On voit les rues, quand même.
Oui, c'est ça. Vous parliez de ville, hein, effectivement. C'est l'idée de ça. On parlait déjà avec l'installation précédente de cette idée d'architecture et autres. On est un peu dans le même idée. Hein. Genre de mise en place architecturée, en tout cas urbanisée. Hein. Je regarde pour que ça va encore. On va aller un petit peu plus vite pour les dernières, pour qu'on ne déborde pas. Alors oui, vous avez bien vu. Hein. Donc on a en effet toute une série de bustes, oui.
Un visage fracassé.
Oui, comment est-ce que vous voyez ce qu'on appelle les gueules cassées. Les gueules cassées, vous connaissez. Guerre de 14, qui est une chose terrible et pathétique. Hein. Donc là, effectivement, il a déposé une série de bustes de gueules cassées. Vous en connaissez beaucoup, des bustes de gueules cassées?
Non.
Ben non.
Non,
parce que j'ai quand même des choses qu'on a complètement oubliées.
Il y a l'homme à l'oreille cassée.
Oui. Qu'on a complètement oublié, qu'on a même assez occulté. Hein.
Surtout caché, oui.
Oui. Qu'on a caché. Comme d'ailleurs les morts de la guerre de 14. Hein. Moi, j'ai été, j'ai été très surpris de voir que, il y a 2 ans, à Givry, c'est Givry, hein, on a enlevé le monument mort de la guerre de 14 qui était au milieu du village, sur la place du village, hein, pour le mettre dans un coin de la place.
Ouais,
Moi j'ai trouvé, pour moi, je trouve ça très choquant. L'année même de la célébration du centenaire de la Première Guerre. Parce que tous les mecs qui se sont fait tuer, alors qu'il y avait 20 ans, qu'il y avait 18 ans, je trouve important qu'on s'en souvienne quand même. Hein. J'étais très très surpris de voir, mais je venais pas le seul endroit, hein, que cette année-là, on a déplacé le monument aux morts pour le remettre sur la même place, mais dans un coin, là où personne ne le voit. On l'a pas éliminé quand même. Il y aura eu 2-3 imbéciles dans mon genre pour dire, attendez, il faut peut-être se souvenir de ceux qui sont morts pour nous. Quoi, hein. Alors on l'a quand même gardé, mais dans un coin.
Et alors, c'était pour faciliter la circulation.
Ah oui, pour faire un parking. Ah, c'est quand même beaucoup mieux. Et voilà, donc c'est... Alors, je veux dire, on a vu ça dans d'autres lieux, je suis même pas sûr qu'il y ait eu cette réflexion-là. Hein. Mais c'est vrai que là, c'est intéressant, parce que voilà quelqu'un qui nous rappelle quelque chose qu'on a voulu absolument mettre de côté. Hein. Ils sont des gueules cassées. Je vous montre d'ailleurs la photo suivante. Pareil. Mais qu'est-ce que vous voyez là?
Parallèle, c'est un masque.
Voilà. Absolument.
Les masques pour
absolument
cacher leur infirmité.
Oui. Le masque africain défend. Mais...
C'est ça. C'est-à-dire que vous avez là la mise en parallèle. De... Alors, le bus que vous voyez à gauche, c'est un bus qui est fait comment?
En plâtre.
C'est pas du plâtre.
Ah,
en marbre. C'est du marbre. Ah, oui. C'est-à-dire que c'est un buste en marbre. Ça veut dire quoi d'ailleurs?
Voilà.
Voilà. Robustesse. Et puis, je vais vous faire faire des bus en marbre tous les 4 minutes.
Non.
C'est
pour honorer quelque chose.
Voilà. Donc, c'est ça. Faire un bus en marbre, c'est. Quand on dit c'est inscrit dans le marbre, ça veut dire que hein, ça marche. Quoi, hein. Donc là, vous voyez qu'il a sculpté dans le marbre une gueule cassée. Ce que personne n'a fait. Parce que les gueules cassées à part, les moulages en cire que vous avez obligé d'histoire de la médecine à Paris, que personne ne devait avoir d'ailleurs, hein, à part les photos parfois insoutenables que l'on voit.
Oui, il y a des photos.
Voilà,
oui.
on n'en parle pas. Hein, c'est-à-dire ces gens qui ont été fracassés alors qu'ils ne demandaient pas de l'être, ben, on n'en parle pas. Là, ils leur donnent la dignité du marbre. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout en faisant ce que vous avez remarqué, c'est-à-dire qu'à côté, effectivement, il met un masque africain. Mais ce masque africain, qu'est-ce qu'il montre?
Déformé.
Voilà. Il y a effectivement une tête déformée, mais est-ce que c'est la même chose qu'une gueule cassée?
Non.
Hein, c'est-à-dire que, quelque part, il y a une espèce de suggestion de mise en parallèle, vous voyez, d'une vraie gueule cassée, mais réhonorée par le marbre, encore une fois. Sortie de l'oubli, vous voyez.
Il y a une sorte d'ironie entre les deux.
Aussi.
Le personnage qui doit être un officier.
Sans doute.
Très...
Ouais.
Avec une pierre très, très noble,
ouais.
Et de l'autre côté, on a un personnage qui rit.
Voilà. Oui, presque drôle, effectivement.
Une façon marbre, sardonique.
Absolument.
Le marbre, c'est un personnage qu'il a imaginé ou quelqu'un de réel?
Alors, je pense que c'est un marbre qui a été sculpté d'après une photo d'un personnage réel.
Oui,
c'est c'est vraiment lui. De... C'est lui qui a fait sculpter ce marbre d'après une photo d'un personnage.
Alors, fait sculpter, c'est
pas fait sculpter. Oui, il a fait sculpter. Bah, comme Rodin faisait sculpter ses plâtres. Hein.
Ouais.
Rodin, c'est pareil. Le bisou de Rodin, c'est pas Rodin qui l'a sculpté, il hein, faut le savoir. Même, hein. Ça, on ne le dit jamais, mais voilà. Rodin, il a fait le plâtre. Voilà, il a fait le plâtre. Et puis après, il y a des praticiens sculptaient le marbre. Alors Rodin venait après pour changer un peu l'oreille et remettre un petit doigt. Mais,
c'était
voilà.
Camille qui...
Pardon?
C'était Camille qui...
Oui, alors, oui, ou des praticiens, souvent des praticiens italiens, d'ailleurs, hein, qui avaient ce métier-là. Donc il faut savoir que les marbres de Rodin ne sont pas des marbres de Rodin. C'est des marbres faits d'après les plâtres faits par Rodin, et qui était ensuite sculpté par des praticiens, et Rodin après reprenait l'œuvre, mais voilà. Mais ce qui compte, si vous voulez, c'est l'idée qui est extraordinaire.
Oui, mais il a quand même fait le plâtre.
Alors, bien sûr, elle a fait le plâtre. Hein. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est encore une fois la conception, si vous voulez. C'est ouais. Ça qui est. Hein. Voilà.
Et l'artiste, là, le portrait là, qu'il a fait sculpter, c'est en lien avec une histoire de sa propre famille?
Non.
C'est quelqu'un comme ça
Quelqu'un comme ça. Comme d'ailleurs les personnages que vous avez vus dans l'œuvre précédente.
Oui, d'accord.
Est-ce qu'il y a une notion entre le support qui est rond à gauche et puis le parallélépipède à droite?
Non, je crois que le support de gauche, vous savez, rappelle ces pieds douches qu'il y a,
ouais,
qui tiennent les mains, voilà, ouais, traditionnelles, ouais. Quoi. Hein. Alors qu'en bas, ben, on est devant le high-tech, vous savez, les musées.
Les pièces d'échecs aussi.
Oui, ça peut faire penser à ça. Mais souvent, ces marbres-là sont sur des pieds douches, ouais. De ce genre. Mmh. Hein.
Et le masque, c'est lui qui l'a fait aussi.
Ah non, c'est un vrai masque africain.
C'est un vrai masque africain.
Mais vous savez, dans le, on a peut-être plus ou moins vu d'ailleurs quand on a travaillé sur les masques il y a quelques années. Il y a quelques fois, mais de manière, j'allais dire, naturelle, enfin, dans la statuaire africaine, notamment dans les masques, ce genre de choses, quoi. Hein, mais qui ne répondent pas à la représentation d'une gueule cassée ou de quelqu'un de déformé, mais qui évoque une déformation spirituelle. Vous voyez ce que, ça peut être une âme, un personnage, une divinité, enfin voilà. Hein. Donc il y a une espèce de mise en parallèle qui suggère plein de choses. Voilà, je termine peut-être un peu plus vite, puisqu'on a plus que 5 minutes.
Des paquets cadeaux,
non, c'est des portes. C'est
des portes. Des portes.
Des portes et des lumières.
Des égaphones.
C'est ça. Il y a des morceaux de portes, effectivement, parce que les portes sont coupées, vous voyez. Et sur ces portes, il y a effectivement des mégaphones.
Mais tous orientés.
Tous orientés. Ça aussi, ça peut vous rappeler des choses.
L'alignement.
Le nombre,
voilà, on retombe sur ce qu'on a dit, ouais. Une installation, c'est aligné, il y a d'ailleurs un peu le même enfermement, hein, le nombre, donc c'est toujours un petit peu la même chose, hein, ce côté...
Un peu coloré quand même.
C'est plus coloré.
On rappelle plus les enfants. Là.
Pardon ?
C'est des cadeaux pour la fête des
grands-mères. Ça pourrait faire penser à ça. Hein. En tout cas, il y a toujours cette espèce de côté compressé, aligné, nombreux... Et cette connexion de la porte et du mégaphone vous dit quelque chose ?
Oui, sur les miniatures.
C'est grandeur nature. Hein.
Ah, non, c'est grandeur nature.
Oui. Là, c'est pris de haut, hein, mais c'est grandeur nature.
Mais toutes les portes sont fermées. Enfin,
Oui. La porte, c'est quand même ce qui ouvre, ce qui ferme.
Il y a une châtière, oui.
Oui.
Oui, c'est vrai, il y a à gauche, c'est coupé en deux.
Elles sont coupées en deux et elles tiennent en biais comme ça.
Elles tiennent en biais par une sorte de... Oui.
Deux moitiés.
Alors c'est le silence, mais c'est pas le silence avec les mégaphones.
Oui, mais les égaphones, ils sont tous orientés dans le même sens.
Oui, c'est-à-dire qu'à la fois la porte, elle ferme et l'empêche de dire. Hein. Puis en même temps, les mégaphones qui eux disent. Ouais. Est-ce que c'est la même chose ? Peut-être que le titre nous en dira plus. Je vous passe en vitesse les suivantes pour pas qu'on... Hein.
Les prothèses, mon Dieu.
Vous savez, si vous êtes, si vous regardez le monde aujourd'hui, hélas, voilà des instruments qui, dans certaines parties du monde, sont très nécessaires. Handicap international, on sait quelque chose. Donc, on est quelquefois. Là, on met sous les yeux des choses qui, hélas, sont quotidiennes dans certains pays.
Apparemment, il a fait plusieurs marbres en gueule cassée.
Hein. Oui, vous voyez dans le fond, hein, exactement. Vous reconnaissez. Hein, voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voyez comme lien entre ça et ce qu'il y a derrière et qu'on a vu tout à l'heure ?
La guerre.
Voilà, toujours. Alors, il y a la guerre, il y a ce que fait la guerre, c'est-à-dire la blessure. Il y a quelque chose derrière aussi.
La reconstruction ?
Voilà, la reconstruction et la réparation. Donc, le fait, quand, vous savez, quand on dit c'est sinistre, etc., oui.
Mais.
Voilà. Évidemment, il ne mieux pas en passer par cette étape, mais...
On dirait la mosaïque.
Oui, c'en est.
C'est la bouée de secours.
C'est sur une. Ça ressemble à une espèce de bouée. Elle est faite avec quoi ? Une sorte de mosaïque. Donc, une mosaïque faite avec quel...
Du tissu ?
C'est pas du tissu.
Du plastique.
Comme matériau, puisque c'est de la mosaïque. Voilà, c'est la céramique. La céramique. Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui tient ces éléments de céramique ensemble ?
Des agrafes.
Et là, justement, ça suggère quoi ? Voilà, toujours. C'est-à-dire que de morceaux.
On peut refaire.
Voilà, c'est ça. On est toujours dans la même idée. Vous voyez, c'est extrêmement différent. Hein, mais il y a quand même cette idée.
Ça, c'est l'artiste.
Mais c'est pareil.
Il a un moyen, il n'a pas de bras, mais il imagine comme il était avant.
Absolument. Ouais. Hein, vous voyez donc quelqu'un qui a perdu un bras, mais par le miroir, son bras est comme restitué. Vous savez, des gens, moi j'ai quelqu'un dans ma famille comme ça, un membre manquant, et quand il m'en parle, c'est un de mes cousins, il me dit, il a perdu une jambe, hein, et il me dit, vraiment, tu sais, ma jambe, c'est comme si j'avais encore. Il a le souvenir de sa jambe. Il en parle d'ailleurs. Parce qu'il n'y a, pas de honte à ça. Enfin, voilà. Il en parle, il dit, finalement, à ma jambe, je ne l'ai plus, mais j'en ai la mémoire. Donc vous voyez, il y a cette ambiguïté, on a plus, on a quand même. Et là, on est un peu dans ce système de réparation qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le bras n'y est plus, et là, il y est par le miroir. Vous voyez ? Vous vous rappelez des miroirs qu'on a déjà vu tout à l'heure ?
Et le bras qui est devant, ça...
Bah, c'est un peu pour évoquer... voilà, enfin, comment vous dire... il aurait ses deux mains, ce serait plus simple, quoi. Enfin, voilà.
Il y a sprint derrière. Il y a...
Oui. Ah bah oui, on est dans la vraie vie. Hein.
Ah. Toujours le papier à lui, par
terre. Non, c'est du miroir, non ?
Oui.
Des miroirs.
Donc effectivement, vous êtes là devant une mer de miroirs, et ces miroirs, ils sont comment ?
Cassés.
Cassés. Ça nous rappelle un peu, vous savez, les frigidaires tout à l'heure, avec les petits morceaux de miroirs.
Ou le débâcle d'un glacier.
Aussi. Je fais un peu bisque. Ça, c'est la dernière œuvre, et puis après, on fera le résumé, si j'ose dire.
C'est des pierres.
C'est ça. Voilà. Vous avez effectivement des grilles, hein, et puis des pierres dont certaines se sont accrochées dans les grilles.
C'est l'antifada.
Pardon ?
C'est l'antifada.
En quelque sorte.
Et puis les matériaux cassés au sol.
Oui.
Oui, mais
c'est la poussière.
C'est ça.
La lapidation aussi.
C'est des restes des parpaings de tout à l'heure.
On pourrait dire. Alors, ça, c'était la dernière pièce que je vais vous présenter. Alors, on va maintenant faire le point sur tous les verses avec les titres et les années. Vous auriez une... Alors, est-ce que d'abord quelqu'un éventuellement connaît l'artiste en question ?
Non.
C'est un Palestinien,
donc vous, en tout cas, vous verrez un artiste,
du
Moyen-Orient, et un artiste du domaine musulman, critique hein, quand même. Très critique.
Mais quand même,
voilà. Mais qui serait. On a le droit d'être les deux, hein, heureusement d'ailleurs. Donc quelqu'un qui serait du domaine musulman et moyen-oriental, très critique par rapport à, on va dire, une... Voilà. Hein. Alors, je vous dis son nom d'abord, je vous montre les œuvres d'abord. Après, je vous dirai son nom, puis vous verrez même sa tête. Voilà. Alors ça, c'est une œuvre qui s'appelle Ghost. Fantôme. Hein. Donc on n'était pas très loin. Hein. Ça date de 2007. Hein. Ça, c'est une œuvre qui s'appelle Flying Rats. Vous savez, aux États-Unis, on appelle les pigeons des flying rats. Parce qu'on trouve que dans les villes, il y a deux types d'animaux terribles, les rats qui sont par terre, qui mangent les poux, etc. Et puis il y a dans les airs, les rats des airs qui sont les pigeons, qui viennent manger tous les immondices, etc. Hein. Parce qu'il se trouve que dans cette installation-là, en fait, les corps des enfants sont faits de graines.
Ah, oui, ça,
donc les pigeons viennent manger les graines qui sont les enfants, vous voyez ce que je veux dire. Ah. D'où ce que vous avez constaté.
Voilà.
Alors là, vous l'aviez vu, hein, Black Cube 4, il a fait une série de peintures autour de la Kaaba. Hein. Donc c'est une dimension critique, hein, vous l'avez bien vu. La Holy Land, bon, la terre sacrée. Hein. Donc vous avez bien vu que cette forme était une forme qui n'était pas tout à fait anodine. Hein. Skyline, hein, donc cette ambiguïté entre les frigidaires et effectivement les grands immeubles. Hein, voilà. Oui, c'est donc de l'huile et sucre. Voilà ce que ça donne. Hein, une vidéo de 2007. Voilà.
Sans titre.
Oui, sans titre. Hein, ça n'a pas de titre. Bon, voilà. C'est comme ça. Idem, d'ailleurs. Vous aviez bien vu la chose. Hein.
En fait, deux matériaux totalement opposés.
Oui, absolument. Donc, on a vu au moins que c'était quelqu'un qui travaillait des tas de manières. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse, de ne pas être sculpteur ou peintre. Oui, oui. C'est, voilà.
La réparation de l'oxyde.
Voilà.
Extrêmement
c'est ça. Hein. Vous savez, on a quelquefois des visions très comme ça. On se dit qu'après tout, la guerre de 14, c'est la nôtre. Hein. C'est notre problème. Hein. Or là, on voit quelqu'un qui, a priori, appartient à une autre culture, hein, mais qui vient s'intéresser à ça. Moi, une année, vous savez, petite parenthèse, j'avais été très étonné. Il se trouve que dans un musée dont je me suis occupé, on avait fait une commande à un artiste malien qui s'appelle Abdoulaye Konaté, dont je vous avais montré des choses il y a 3 ans, d'ailleurs. Et on avait demandé donc à Abdoulaye Konaté de nous faire une œuvre. Bien. Moi, je m'attendais à une œuvre très africaine, vous voyez, on demandait un malien, etc. Et il y avait une petite absolument pas ça. qui était une sorte de grand patchwork qui s'appelait, de mémoire, hein, Plaidoyer pour la paix entre Israël et la Palestine. Oh. Absolument. Moi, je m'attendais à une œuvre, vous voyez, très africaniste, subsaharienne. Absolument pas. Et je me suis dit, mais enfin, après tout, pourquoi je m'en étonne? Il n'y a que nous qui devons nous intéresser au problème du Moyen-Orient. Il n'y a que l'Occident qui doit s'intéresser à ça. Bon, pourquoi quelqu'un du Mali ne peut pas s'intéresser à ça? Enfin, je me suis moi-même dit, mais c'est ridicule. Pourquoi est-ce que je... Moi, je suis étonné. Il n'y a pas de surprise. On est tous des êtres humains. Vous voyez? Et ben là, c'est pareil. Donc, voilà quelqu'un qui est d'une culture, a priori, hein, on va voir, tout à fait autre, qui, après tout, s'approprie cette boucherie horrible qui a été la guerre de 14 et qui remet en avant des gens que nous, d'ailleurs. On a pas mal oublié. Hein. Et ça, c'était la même chose que le Cassé. Ça s'appelle Assassinos, Assassinos. Hein. Évidemment, vous avez là quelque chose qui évoque un peu, c'est les manifestations, hein, où on va dénoncer les cartels de la drogue ici, les mafias là, etc.
C'est
hein.
Quoi, assassin, ça veut dire
assassin, en espagnol, oui. Voilà. Artificial Nature. Bon, je crois que ça parle de soi-même. Hein. Voilà, Ring Theory. Bon, c'est un espèce d'anneau, une sorte de grosse bouée, sauf que c'est de la céramique et de la mosaïque en céramique. Réfléchir la mémoire, intéressant comme titre, je trouve, par rapport à l'œuvre. Hein. Le grand miroir du monde, bon, No Comment. Et puis enfin, on emprisonne pas les idées, qui est une de ses œuvres les plus tardives. Alors, l'artiste dont je vous parle, qui a fait tout ce que vous avez là, est un artiste français.
Ah.
Oui. Un des artistes, il a obtenu le prix Marcel Duchamp il y a 2 ans. Hein. C'est aujourd'hui, dans le monde entier, l'artiste français le plus exposé dans les musées du monde entier. Il est né à côté de Paris. Hein. Il s'appelle Kader Attia. Il est né à Duny, hein, c'est dans la banlieue parisienne. Ses parents, eux, sont d'origine algérienne.
Oui, mais on sent quand même.
On sent. Voilà. Hein. Il est musulman. Hein. Ouais, vous avez remarqué qu'il a une dimension critique de la région qui est la sienne, très, très appuyée. Pour l'avoir d'ailleurs encore entendu parler, il y a 2 jours sur France Culture, vous pourrez en replay réécouter ça, j'ai toujours été très surpris, et encore plus là, de la très grande subtilité de de ses propos. Si vous voulez. C'est quelqu'un, je trouve, d'une... Enfin, moi, je trouve que c'est un artiste qui est vraiment... fait du bien. D'ailleurs, vous voyez, il est un type toujours très souriant, très, très amical, très, très sympathique, si vous voulez. Et vraiment quelqu'un qui, dans ses dires, et je crois aussi comme dans ses œuvres, dont vous avez vu à quel point elles étaient multiformes, quoi, hein, et quelqu'un qui, dans les problèmes actuels qu'on connaît, hein, je ne parle pas du Covid, mais de ces problèmes multi-ethniques, multiculturels que l'on connaît, amène vraiment le débat d'avoir une hauteur, une subtilité qui nous fait du bien, on en a un peu besoin quand même, hein. Et qui permet aussi de, vous voyez, de désamorcer les petites bombes que quelquefois on nous prépare. Quoi. Donc on est là devant un artiste vraiment d'une grande subtilité, d'une grande honnêteté, un artiste très pacificateur aussi. Alors évidemment, il met des choses pas drôles sous le nez. Mais encore une fois, est-ce qu'il faut les taire, faire comme si ça n'existait pas, pour que ça nous explose le visage, ou dire que ça existe, les affronter pour les réparer? Vous voyez, ben, c'est tout le sens de son travail. À demain, alors. Oui, je vous en prie. De toute façon, voilà, on a terminé. Hein.
Oui, il a 51 ans, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est un gamin. Oui, c'est un type vraiment très...
C'est quoi, Marcel Duchamp?
C'est un peu, vous savez, comme il y a le César de la musique ou le César de je ne sais pas quoi. Vous savez, voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Mais pour le domaine de l'art contemporain, il a eu il y a 2 ans le prix Marcel Duchamp. Voilà.
D'accord. Mais c'est toute technique, alors.
Pardon ?
C'est sur toute technique.
Ah oui, c'est pour les artistes. Ouais. Mmh. Voilà. Et donc, c'est un artiste qui est dans toutes les grandes collections d'art contemporain du monde entier ont des œuvres de Canella.
Il touche à tout aussi.
C'est ça qui est très, très étonnant. Et qui, moi, au départ, il y a quelques années, quand j'ai découvert ces travaux, je ne comprenais pas trop. Je me disais, voilà, qu'est-ce qu'il y a à voir entre les ghosts du départ, quoi, et puis le risque qu'on a vu tout à l'heure. Je ne comprenais pas. Quoi. Et c'est en fait en voyant de plus en plus de choses, en travaillant un peu sur moi, que j'ai vu que, bah oui, les médiums, les moyens étaient différents, mais que la ligne, je trouve, très cohérente, et en même temps multiple. Parce que là, vous voyez, ça fait 1h30 qu'on en parle, mais on n'a pas fini quelque part.
Hein. Quelle est sa formation
Alors, il a.
Qui le porte finalement? Parce que vous avez dit qu'il était connu depuis 30 ans.
Oui, 30-35 ans.
Donc il a été connu très tôt.
Oh, assez tôt, oui. Il a commencé par une école de beaux-arts en banlieue, pas à Duny, mais peut-être à Saint-Denis, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et puis après, mais il a fait son petit bonhomme de chemin. Quoi.
Ouais, voilà. Grand bonhomme de chemin.
Ouais. Bon, c'est Ghost hein, qui avait été présenté, je ne sais plus, c'est à la Documenta de Cassel ou à Venise, je ne sais plus, mais qui a beaucoup marqué la critique. Voilà. Cette œuvre-là, bon, c'est une œuvre que je trouve assez forte, effectivement. Oui, et en même temps, pas du tout. Vous voyez, c'est pas blanc ou noir. Quoi. Enfin, ça l'est peut-être physiquement, mais ça l'est pas au niveau de ce que ça dit. Et je trouve justement que espèce de subtilité qui... Enfin, moi, j'ai encore une fois entendu il y a 2-3 jours, et j'étais très surpris, parce que je trouve que c'est pas très fréquent, d'entendre la richesse et à la fois la douceur mais la subtilité c'est pas quelqu'un qui tranche en deux comme ça puis voilà hein, c'est une analyse d'une subtilité d'une douceur et d'une subtilité remarquable quoi. Et ça alors en fait c'est vous voyez c'est une œuvre qui est pas légère hein, en sortant avec des petits oiseaux dans la tête hein, on n'a pas regardé des bouquets de fleurs et des petits chachas au pied hein, mais n'empêche c'est des œuvres qui vous malaxent et qui, au bout du compte, moi, je trouve, font un bien fou. Et qui, encore une fois, ne mettent pas la poussière sous le tapis, nous la présentent, et nous disent, ben, ça, il faut qu'on le traite. Et qui disent pas... c'est pas des œuvres qui disent, les musulmans, ils sont géniaux, les non-musulmans sont épouvantables, mais ça n'est pas l'inverse non plus. C'est une œuvre très fraternelle, vous voyez, qui sait se rappeler des oubliés de l'histoire. Moi, je trouve... voilà, je trouve que c'est un...
Mais il a quand même un côté critique.
Ah, bien sûr, très critique, sur la religion musulmane, qui est sa religion, est très très critique. Hein. Vous avez vu le sort qu'il fait à la Kaaba, par exemple, hein, ou le sort qu'il fait à ses femmes voilées du départ, inutile de dire que c'est pas sa tasse de thé. Hein. Voilà. Donc il est très critique, et encore une fois, dans les discours qu'il a, on voit bien que son but est vraiment de... Bon, il est musulman parce que d'autres sont catholiques, d'autres sont juifs, d'autres sont protestants, d'autres sont je sais pas quoi. Enfin, on a tous nos religions, quoi. Hein. Ou pas de religion, d'ailleurs. Hein. Mais c'est pas grave. Quel est le problème, sans aucun. Et simplement, on est d'une culture. Bon, voilà, elle est ce qu'elle est. Et puis tant mieux, d'ailleurs. Donc il est plutôt justement dans ce tant mieux, vous voyez, que dans ce il y a des gentils et des méchants. Okay. Et ça, aujourd'hui, dans des problèmes quand même aussi graves que ceux-là, je trouve que c'est une parole, et c'est une parole esthétique, qui est heureuse. Quoi.
Il a même un cache-col symbolique.
Oui, oui, oui. Voilà.
Très bien.
Merci. Ben voilà. Merci. Alors demain, ce sera complètement différent, je vous préviens. Je ne dis pas ce que ce sera, mais vous verrez.